Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte.
Oui.
Le Club de la CAN, présenté par Hakim Djellouat sur Africa Radio.
Salut à tous et bienvenue, il est 20h18, heure française, à 18h18, eh bien, en temps universel, vous êtes sur Africa Radio pour suivre le club de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, hein, bien sûr, c'est sur notre antenne jusqu'au 19 juillet, date de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va battre son plein vendredi du côté de l'Égypte, bien sûr, pour vous faire vivre, hein, bien sûr, toutes ces émotions, tous ces matchs et toute cette ferveur du football africain. On aura à cœur, bien sûr, de vous partager pas mal de choses ce soir avec beaucoup d'informations, beaucoup de spectacles et beaucoup aussi d'analyses avec, bien sûr, l'équipe du club de la CAN. On le rappelle, hein, bien sûr, lorsque les Sénégalais, eh bien, ont remporté leur match, c'était hier face, eh bien, à la Tunisie. Ils ont tout simplement exulté. L'ensemble des supporters, eh bien, ont exulté. Et c'est une belle chose pour le Sénégal parce que ça faisait 17 ans qu'il n'avait pas retrouvé le chemin, bien sûr, de cette grande finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être intéressant parce que juste derrière a eu lieu Nigeria-Algérie, entre une demi-finale aussi, entre deux belles nations du football africain. Et ce sont les Algériens, au bout du coup, qui ont réussi à remporter leur match. On va s'intéresser dans quelques instants aussi, hein, au retour, bien sûr, du Bénin, les écureuils du Bénin, qui ont eu un retour, eh bien, on peut le dire, avec triomphe. Et c'est Jocelyne Senahoun qui est avec nous depuis Cotonou pour nous expliquer un petit peu que s'est-il passé au retour des écureuils du Bénin. Bonsoir Jocelyne Senahoun, comment allez-vous ?
Ça va très bien, Hakim. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les amis auditeurs de Africa Radio.
Vous êtes avec nous sur Africa Radio, vous qui nous rejoignez, eh bien, c'est le club de la CAN, le débrief, eh bien, et le bilan de cette Coupe d'Afrique des Nations après ces phases finales de fou, ces phases finales splendides, ces phases finales formidables que vous avez suivies sur notre antenne sur Africa Radio. Avec nous, Jocelyne Senahoun, journaliste eh bien, béninoise qui travaille notamment pour la Radio Nationale. Jocelyne, comment s'est déroulé, eh bien, ce retour, eh bien, des écureuils du Bénin du côté de Cotonou? On a entendu beaucoup de choses, en tout cas on a ressenti effectivement beaucoup de chaleur lors de leur retour du côté de Cotonou. Comment s'est passé le retour des écureuils du Bénin?
Comme vous l'avez dit dans votre introduction, Hakim, eh bien, c'était un retour triomphal des héros. Ces écureuils-là qui nous ont fait vibrer depuis des milliers de kilomètres, eh bien, ils ont été très bien accueillis. Il faut dire que leur retour était prévu pour 15 heures. Donc, déjà à 13 heures, l'aéroport était rempli. Les gens sont venus de l'intérieur du pays, d'un peu partout pour les accueillir. Et finalement, c'est seulement à 18 heures qu'ils sont arrivés. 18h30, 18h45, heure cotonoise, bien sûr. Et dès qu'ils sont arrivés, bien, ils ont eu l'accueil qu'ils méritaient, l'accueil qui était à la hauteur de la prestation qu'ils ont fait du côté de Ismaïlia et du Caire également. Donc voilà, ils ont été accueillis en triomphe. Tout le peuple béninois est sorti et ils ont fait une caravane qui a drainé du monde. Il y avait les taxis, motos, les gens sont sortis de leur maison et la caravane a drainé du monde. Pendant plus de 3 heures de temps, ils ont sillonné la ville de Cotonou, ils ont fait le tour, les grands quartiers de Cotonou. Ils sont allés d'abord chez le président de la République. Juste après la descente de l'aéroport, ils sont allés d'abord chez le président de la République, le président Patrice Talon, qui les a reçus et qui leur a dit toute sa fierté, qui les a encouragés. Voilà, ils sont restés chez lui pendant pratiquement une demi-heure et juste après, la caravane a suivi son cours. Ils sont allés dans les grands quartiers de Cotonou. Eh bien, l'apothéose était au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, où ils ont dansé sur un podium qui était déjà fait pour les accueillir. Donc, il y avait des artistes béninois, il y avait tout le peuple cotonois qui a fait le déplacement. Il y avait un monde fou. Il y avait tellement de monde. Et puis, bon, voilà, ils ont dansé, ils ont chanté au rythme et au son de la musique béninoise pendant des heures. C'était des moments de fortes émotions. Je ne vous dis pas, c'était de grands moments de joie. Ils ont reçu tout simplement l'accueil qu'ils méritaient. Un accueil qui était à la hauteur, voilà, de leur prestation.
Et un accueil à la hauteur.
Pour les soirs à venir.
Oui, un accueil à la hauteur de leur prestation. On sent votre émotion, Jocelyne Senahoun, au retour justement des Béninois, des Écureuils, après ce beau parcours. On le rappelle, hein, bien sûr, les Écureuils du Bénin qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 et qui ont quitté la compétition, bien sûr, il y a quelques jours, on peut le rappeler, hein, alors que le Bénin participait à sa quatrième Coupe d'Afrique des Nations. Leur qualification, ils l'avaient obtenue le 24 mars 2019. Et là, cette fois-ci, effectivement, ils ont réussi à passer le premier tour pour les Écureuils du Bénin. C'était un plaisir de les voir évoluer dans cette Coupe d'Afrique des Nations et de les voir jouer, bien sûr. On va écouter d'ailleurs peut-être un des joueurs. C'est bien sûr un défenseur, hein, Jocelyne, que vous avez eu il y a peu de temps, il y a quelques jours, lors de leur retour. C'est Olivier Verdon, défenseur central, qui s'est exprimé justement à votre micro, Jocelyne Senahoun. On l'écoute tout de suite.
C'est vrai qu'on a fait une belle CAN, on est vraiment content de rentrer au pays maintenant. On remercie tous les supporters et puis on va profiter un maximum avec eux.
Et on va profiter un maximum avec eux. Le coach Lamine Badiane est avec nous également, il nous a rejoint par téléphone. Bonsoir coach Lamine Badiane, le retour des Écureuils du Bénin, on tout simplement exulté, le public on l'a entendu dans l'explication de Jocelyne Senahoun, avec beaucoup d'émotion dans sa voix, on le ressent, ça a été effectivement quelque chose de très chaleureux. Comment voyez-vous effectivement le retour des Écureuils du Bénin en héros, coach Lamine Badiane? Du côté de Cotonou.
Ben écoutez, c'est normal, hein, l'objectif était atteint. Le premier objectif, c'était de passer le premier tour et puis surtout de marquer un but. Je crois que les deux ont été atteints. Donc, résultat des courses, le Bénin n'avait jamais passé le premier tour.
Ouais.
Ils se sont quand même retrouvés. Est-ce que, comment dirais-je, en huitième de finale, c'est bien ça, si mes souvenirs sont exacts.
Tout à fait.
Bon, alors, donc c'est normal. Je veux dire qu'ils ont joué leur va-tout, ils ont vu qu'il y avait la possibilité de passer. Malheureusement, bon, ils sont passés, ils se sont affrontés à une équipe sénégalaise qui, aujourd'hui, se retrouve en finale. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent arguer le fait que ils ont rencontré une équipe finaliste. Donc, finalement, si jamais le Sénégal remporte la Coupe, ils diront tout simplement qu'ils ont été éliminés par une équipe qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et je compte sur eux pour être vraiment, vraiment les supporters de l'équipe sénégalaise.
Oui, effectivement, avec les Béninois, hein, on le rappelle, qui ont quitté la compétition, mais qui ont été accueillis en héros. On le rappelle, dans le groupe F, ils se sont placés troisième dans ce groupe F. Le Bénin, avec trois points, bien sûr, accompagné, on le rappelle, du Ghana, du Cameroun, de la Guinée-Bissau, qui avait fini quatrième. Et en tant que meilleur troisième, ils ont effectivement, tout simplement, réussi à passer le premier tour en phase finale. Nous allons écouter un autre joueur, hein, c'est un défenseur également, c'est un attaquant qu'on va écouter dans quelques instants, et lui effectivement il a tout simplement exprimé aussi sa joie au micro de Jocelyne Senahoun. C'était effectivement juste après leur retour, l'attaquant Steve Mounier qui s'exprime au micro de Jocelyne Senahoun pour exprimer aussi toute sa joie après avoir participé à cette Coupe d'Afrique des Nations.
Je suis un homme heureux quand je repense à la situation dans laquelle nous étions il y a encore 3 ans. Merci à tous les Béninois qui nous ont soutenus. On est content de rentrer à la maison. On va faire notre tour de ville et après on continuera à travailler parce que maintenant le Bénin est entré dans la grande famille des nations de football. Il faut continuer à travailler pour faire mieux à chaque fois. Je n'ai jamais vécu une émotion aussi grande de ma vie et je veux encore dire merci à tous les Béninois. On est content de leur avoir donné cette joie et surtout content du symbole que cela a démontré. Nous sommes une nation, le Bénin révélé, c'est nous tous et c'est ensemble que nous allons le construire.
Et quart de finaliste, hein, pas huitième de finaliste, le Bénin. Ils sont sortis effectivement face au Sénégal le 10 juillet 2019 au stade du 30 juin, coach Lamine Badiane. On a entendu Steve Mounier, le dernier bien sûr, tout simplement interviewé par Jocelyne Senahoun. Elle en a interviewé aussi d'autres, mais on a particulièrement choisi ces deux-là parce que on les a aussi sentis émus, coach Lamine, après ce retour en héros, ils le disent. Maintenant, le Bénin fait partie de ces grandes nations du football africain.
Oui, bien sûr. Je veux dire, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend, coach Lamine.
Ouais. Non, mais autant pour moi, par rapport au huitième, j'allais les dégringoler au huitième.
Oui, ils sont sortis en quart de finale, hein, bien évidemment.
Oui, il y a une chose quand même qui est positive, c'est que parmi les 24 équipes qui ont été invitées à jouer cette Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin devait se placer. Et je suis content pour eux qu'ils aient quand même eu ce qu'on appelle les meilleurs troisièmes. Ça aurait pu être parmi les aller jusqu'au bout parce qu'ils ont joué leur chance à fond. Et puis, je pense que ce que je reproche un peu à l'équipe peut-être béninoise, c'est d'avoir eu peur alors qu'ils ont un coach qui est quand même assez expérimenté oui. par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est une bonne compétition. C'est une compétition qui réunissait les 24 équipes de l'Afrique. Et aujourd'hui, quand même, cette équipe-là fait partie des meilleures de l'Afrique. On a vu des joueurs qu'on ne connaissait pas, franchement. On attendait Sessegnon, moi je ne l'ai pas vu. On attendait Poté, quelquefois j'ai eu l'impression que le coach l'a sacrifié pour jouer un peu plus défensif.
Ouais.
Alors qu'il y avait des possibilités pour cette équipe du Bénin-là de passer. Parce qu'ils ont eu du culot, quand même, quelqu'un qui bat l'Algérie à domicile, ça veut dire que, quelque part...
Et le Maroc en huitième de finale.
Le Maroc en huitième de finale. Donc, ouais. on peut se tenter de dire, tiens, une des deux équipes finalistes nous a battus, mais, quand même, nous avons tenu tête à ces équipes-là. Donc, aujourd'hui, sur 24 équipes, je crois que le Bénin s'est bien positionné. C'est normal que la fête se fasse. Mais bon, pour rigoler un peu et titiller peut-être Jocelyne, ils ont rencontré des meilleurs qu'eux.
Oui, effectivement, qu'ils ont rencontré des meilleurs qu'eux. En tout cas, ça a été aussi une bonne expérience hein, pour l'ensemble de l'effectif béninois. Jocelyne Senahoun, on a entendu aussi, bien sûr, le président accueillir les joueurs de la sélection béninoise de football en héros. Quels ont été les mots du président du pays ?
Eh bien, le président, il a exprimé toute sa fierté, il leur a dit qu'il voulait révéler le Bénin, mais il comprend désormais que le Bénin révélé, ça prend d'abord par le sport est allé plus vite que lui, que son programme, et que c'est désormais le sport qui révèle le Bénin, qui le fier, et qu'il voudrait que pour les foires à venir, eh bien, les écureuils aillent encore plus loin, qu'il mettra les moyens qu'il faut quand même pour que désormais on parle bien des écureuils. Hakim, je voudrais revenir sur l'élément sonore qui est passé.
Oui.
Et Steve Mounier, c'est plutôt le ministre des Sports qu'on a écouté.
Tout à fait.
Qui s'est exprimé dans le
Oui, effectivement, bien sûr, Jocelyne Senahoun, merci pour la précision. On a Salim qui nous a rejoint. Jocelyne Senahoun, restez bien avec nous, le coach Lamine également qui est avec nous. Salim qui va nous donner aussi peut-être son avis sur la sélection du Bénin qui est rentré en héros après ce quart de finale joué du côté de l'Égypte. Salim Layouni, bonsoir. Comment ça va et comment avez-vous vu cette sélection du Bénin sur cette compétition, on sait que vous l'avez suivi attentivement, Salim, tout comme la sélection tunisienne et les autres aussi. Mais comment avez-vous, quel a été votre œil sur cette sélection béninoise dans cette compétition de Coupe d'Afrique des Nations ?
Déjà, bonsoir et bonsoir à tout le monde.
Bonsoir.
Alors, déjà, cette équipe du Bénin, moi, je l'ai trouvée assez bonne dans le jeu, c'est-à-dire que même s'ils avaient un bloc bas, quand ils avaient le ballon, ils essayaient de faire très très mal en contre. Après, bien sûr, ils sont tombés sur des grosses équipes. Éliminer le Maroc, un mondialiste, hein, et quel mondial aussi le Maroc a fait, puisqu'ils avaient très très bien joué lors du dernier mondial. Donc éliminer le Maroc au tir au but, c'était une très très grosse performance. Sortir des poules avec trois matchs nuls, c'est très bien aussi, parce que même si on gagne pas, on est invaincu. Et après, il y a eu ce fameux quart de finale contre le Sénégal.
Tout à fait.
Alors, coach Lamine parlait de Stéphane Cessénion. Stéphane Cessénion, il est en fin de carrière, donc bon, l'attendre sur toute la compétition, c'était un peu difficile, mais lui, au moins, déjà, sa présence sur le terrain...
Elle était importante.
Ça rendait plus fort ses coéquipiers. Je pense à Mama, je pense aussi à De Almeida, le joueur formé au PSG, qui était vraiment très, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé De Almeida. Il a très, très bien joué. Et puis, on a eu aussi une équipe qui a raté quelques occasions qui aurait pu faire douter les gros. Mais la différence entre les gros et les moins gros, entre guillemets, ouais, c'est que quand il y a des occasions qui viennent, pour le moins gros, le petit en général, le petit poussé entre guillemets, il ne faut pas qu'il les rate. Parce que lui, il a encore moins le droit à l'erreur que le gros. Et c'est la raison pour laquelle ils sont sortis contre le Sénégal. Après, bien sûr que le Sénégal est plus fort que le Bénin. Ça, il n'y a pas photo. Le Sénégal est un grand d'Afrique. Et le Bénin est sur le bon chemin pour essayer de titiller, on va dire, les 15 premières places du continent. Donc moi, je dis bravo aux écureuils, bravo à tous les joueurs, bravo à leurs supporters. Bravo à tout le monde pour ce boulot-là. Moi, je les avais vus pour la première fois en 2004 en Tunisie, et c'était difficile pour eux. Mais maintenant, là, ils n'ont pas à rougir de leur canne. Et franchement, bravo à tous les Béninois. Rien à dire. Et c'est cette attitude qu'il faut avoir. Et il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et tant mieux.
Hey, supporters béninois, béninoises, n'hésitez pas à nous appeler au 01 55 07 58 00 pour nous donner votre point de vue sur cette belle Coupe d'Afrique des Nations disputée par le Bénin, les écureuils du Bénin qui ont satisfait leur public, leur COP comme on peut le dire, leurs supporters, leurs supportrices. Appelez-nous au 01 55 07 58 00 depuis la France, au 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout et bien dans le monde, depuis l'international. Envoyez-nous aussi vos messages, si vous êtes supporter du Bénin, pour nous donner vos impressions sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui vient d'avoir eu lieu, bien sûr, pour le parcours des Béninois, et qui n'est pas terminée encore, cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque sur notre antenne, nous aurons à cœur de vous présenter et de vous commenter la petite finale, ça sera mercredi du côté de l'Égypte, mais restez bien connectés sur Africa Radio. Vous saurez tout, bien sûr, sur le dénouement de cette compétition jusqu'au 19 juillet 2019. Eh bien, nous aurons à cœur, bien sûr, aussi de vous présenter l'ensemble des autres résultats. On va débriefer aussi les demi-finales entre le Nigeria et l'Algérie, entre le Sénégal et la Tunisie. Bien sûr, on va écouter justement le sélectionneur de la Tunisie. Mais avant, peut-être, on va s'intéresser à ce commentaire sportif d'un Français suite, à cette belle rencontre entre le Sénégal et la Tunisie. On écoute tout de suite. Et on a un petit problème technique, on va réussir à vous le passer, on vous le promet, ce commentaire. Et effectivement, on va écouter dans quelques instants, bien sûr, cette partie de match qui nous a tout simplement ébloui, qui a été tout simplement un petit peu chaude, un petit peu stressante en tant que commentateur. On va écouter justement un des commentateurs qui a pu suivre cette rencontre de très près pour nous faire partager, nous faire vibrer ce match.
Oh, c'est repoussé, et c'est même capté par Alfred Gomis.
Bien fait Ismaïl Assar, qui est venu récupérer, qui accélère aussitôt. Ismaïl Assar, le contre-favorable,
oh, contact là aussi, contact là aussi, et le point de pénalty cette fois-ci désigné en faveur des Lions du Sénégal sur cette accélération, cette prise d'initiative d'Ismaïl Assar.
La concentration d'Henri Sévère. Dans ce que les minutes avancent, comme cela,
Moïse Hassen, Moïse Hassen qui est passé au travers, et derrière c'est le Sénégal qui en profite et qui mène 1-0. Le Sénégal se qualifie pour la deuxième finale de son histoire en Coupe d'Afrique, la première depuis 2002, il y a 17 ans.
Et on l'a entendu, Xavier Domergue, bien de cette chaîne de télévision sportive, un confrère qui a commenté cette rencontre et qui nous a donné des frissons à l'issue de ce match. Le Sénégal qui est presque, eh bien, tout simplement qualifié pour cette belle finale de Coupe d'Afrique des Nations. Pour la première fois depuis 2002, le Sénégal et son sélectionneur Aliou Cissé, eh bien, ont poussé un gros ouf de soulagement. Mais le défi était de taille, coach Lamine Badiane. Le défi va être aussi immense face à l'Algérie, bien évidemment vendredi au Caire, pour apporter un premier trophée au palmarès des Lions de la Teranga.
Ou peut-être aussi un deuxième trophée pour l'équipe des Fenech d'Algérie.
Exactement.
Ça, on ne peut pas le nier. Je crois que il y a eu un premier match où l'Algérie a gagné 2-0. Mais soyez sûr que ce deuxième match-là ne sera pas le même que celui de la première, à moins. Que l'Algérie, bien sûr, part avec un avantage psychologique. Ils ont gagné, donc ils sont dans de bonnes dispositions. Maintenant, il faut rester vigilant pour savoir que un match n'est toujours pas le même. Ça me rappelle un peu une anecdote. En 90, l'Algérie avait battu le Nigeria 5-0 lors des matchs de poule. Et en finale, c'est vrai qu'ils ont gagné. En 90, c'était le premier trophée de l'Algérie. Mais cette fois-ci, ça a été plus que difficile. Donc, vendredi, on verra bien. Je pense qu'il y aura un autre match. C'est vrai que l'équipe d'Algérie est une équipe très difficile à manier. Mais ce que j'ai vu depuis quelques temps, c'est qu'elle peine maintenant. Elle a toujours ce jeu collectif qu'elle a. Elle a ramené un peu le coach Jamel Belmadi. Mais je pense que ça va être plus compliqué parce que les matchs se suivent,
ouais.
Il y a beaucoup d'intensité. L'Algérie, j'aurais bien voulu savoir si elle est menée, comment elle doit se comporter. Mais en tout cas, cette équipe sénégalaise aussi a ramené beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Elle est montée en puissance. Je pensais que ça a été le cas aussi de la Tunisie, même s'ils ont été éliminés par le Sénégal. Mais l'un dans l'autre, en tout cas, c'est une belle finale qu'on va voir, une finale où chaque détail sera étudié par le coach ou le coach de chaque équipe, et on va se retrouver très certainement avec une finale très étriquée et ouais. Que le meilleur gagne.
Parole de coach Lamine Badiane. Vous êtes avec nous sur Africa Radio. Il est 20h39 avec nous, Jocelyne Senahoun. Jocelyne, le Sénégal et la Tunisie, un gros match. Un match palpitant, on l'a entendu, hein, à travers les commentaires de Xavier Domergue, journaliste sportif et commentateur. Ça nous a donné des frissons, effectivement, cette rencontre. On l'a aussi commenté à travers notre antenne hier, et on peut vous dire que les Sénégalais du côté du club Georges Ier à Paris, notre partenaire pour la diffusion de ces matchs en direct, étaient chaud bouillants, tout comme les Tunisiens, ils étaient chaud bouillants. En tout cas, il y avait une ambiance très très fair play entre les supporters sénégalais et tunisiens. C'était vraiment bon enfant. Et comment avez-vous vécu ce match, Jocelyne Senahoun, depuis le Bénin, du côté de Cotonou? Comment avez-vous vécu ce match Sénégal-Tunisie, cette première demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations?
Eh bien, cette première demi-finale a été vécue avec beaucoup de palpitations. Je voudrais dire simplement que c'est un match assez palpitant. Parce que bon, il y a eu ce but marqué contre son camp. En plus, c'était une rencontre plaisante. On a vu quand même un beau jeu, un beau match. Et bon, le Sénégal quand même a mérité de gagner ce match-là, même si il y a eu quelques erreurs de l'arbitrage que moi j'ai remarqué personnellement. Je pense que le Sénégal méritait quand même de passer, de gagner ce match.
Oui, Jocelyne Senahoun qui affirme que le Sénégal, eh bien, au vu de cette rencontre et de ce match, il devait bien sûr tout simplement passer en finale. On va poser la question à Salim Layouni qui est avec nous, spécialiste du football aussi tunisien. Salim, comment avez-vous vécu cette Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection tunisienne? Ils n'ont pas démérité, ils ont montré un beau visage, et comme le disait effectivement Naïm Sliti lors d'une interview pour nos confrères, eh bien, que les Tunisiens pouvaient sortir la tête haute, pouvaient être fiers de leur parcours, malgré effectivement quelques difficultés dans cette CAN. Mais on a vu effectivement une jeune sélection tunisienne progresser petit à petit dans la compétition, monter en puissance, mais effectivement face à l'ogre sénégalais, face au lion de la Teranga, ça a été difficile. Et effectivement, sur un coup du sort, on l'a vu avec ce but inscrit contre son camp, le défenseur tunisien Brown n'y pouvait rien et a laissé effectivement ce but aller au fond des filets. Comment avez-vous vécu ce match, cette demi-finale entre le Sénégal et la Tunisie, en quelques mots, Salim, et cette compétition pour la sélection des Aigles de Carthage?
Alors déjà, pour commencer, félicitations à coach Lamine, au Sénégal, à tous les Sénégalais pour cette finale, parce que c'est la première depuis 2002, donc ils se sont qualifiés en finale, ils méritent par rapport au parcours. Donc félicitations à tout le Sénégal, tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises. Deuxièmement, concernant la CAN de la Tunisie, réussite oui et non. Parce que les 4 buts encaissés, il y a 3 buts contre 3 CSC, 3 buts contre son camp, et 1 but, c'est une boulette du gardien contre l'Angola, il relâche et l'Angolais marque. Donc 4 buts sur 4 erreurs, ça c'est inacceptable. Bon, troisièmement, la CAN, oui, elle est réussie parce que c'est quand même la demi-finale. On a réussi à éliminer notre grande bête noire qui est le Ghana. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Donc oui, quand même, il y a des bonnes choses à retenir. Sinon, concernant le match du Sénégal. Le match du Sénégal, c'était vraiment un vrai Sénégal-Tunisie. Dans le sens où c'était vraiment très serré. Je savais que ça allait partir au-delà des 90 minutes. Après, soit prolongation, soit tir au but. Mais c'est tellement serré parce que c'est deux grandes Afriques qui se connaissent. Contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, non, la Sénégal et la Tunisie se connaissent très très bien, puisqu'ils se sont affrontés plusieurs fois ces dernières années, notamment à la dernière CAN, notamment aux éliminatoires de la CAN 2015. Donc ce sont deux sélections qui se connaissent parfaitement. Dans ce match-là, il y a eu deux pénaltys ratés, un de chaque côté. Dans le jeu, le Sénégal, j'ai trouvé que la première mi-temps du Sénégal, elle était très très bonne, mais ils n'ont pas mis les occasions. Et en seconde période, la Tunisie a eu des grosses occasions qu'elle n'a pas mis. Donc bon, on va dire que le match nul, au bout du temps réglementaire, était mérité. Maintenant, ce fait de jeu avec la VAR, c'est dommage que la VAR enlève ce pénalty-là, parce que le Wanyama Tessema, l'arbitre éthiopien, avait pris sa décision. Et dans le camion, l'arbitre marocain a dit non, il n'y avait pas un pénalty. Bon, ça ne concerne en aucun cas le Sénégal, c'est un fait de jeu, c'est la VAR, mais sur ce coup-là, peut-être qu'il aurait pu avoir pénalty. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, maintenant, il y a le match de la troisième place, Hakim, qui est très important. Et oui. Tu sais pourquoi, Hakim, il ne faut pas le perdre. Parce qu'il faut que soit la Tunisie batte le Nigeria, ou au moins faire match nul et aller au tir au but, quel que soit le résultat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde.
De la Coupe du Monde de football, tout à fait.
Voilà, et vu que le format des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sera le même que celui des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Donc, c'est-à-dire que c'est le classement FIFA qui va primer et qui aura une importance énorme dans cette phase éliminatoire, puisqu'il y aura des barrages. Déjà, il y aura 10 groupes de 4. Ensuite, il y aura tous les premiers. Les 10 premiers s'affronteront dans des barrages. Et les 5 premières places africaines, les 5 nations africaines qui seront okay, dans les 5 premières places du classement FIFA au niveau de l'Afrique, seront protégées parce que non seulement elles pourront ne pas se rencontrer, mais en plus de cela, elles auront l'avantage de recevoir au match retour lors d'un éventuel barrage pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Donc, il faut engranger le maximum de points. La Tunisie a réussi cette CAN, demi-finaliste, c'est bien. Maintenant, il faut essayer de bien finir contre le Nigeria, engranger le maximum de points en attendant le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Voilà, Hakim.
Ouais, merci Salim pour justement cette analyse intéressante. On va accueillir Dia qui nous contacte, il y a pas mal d'auditeurs aussi. Appelez-nous au 01 55 07 58 00, vous êtes les bienvenus. Le micro sera ouvert pour vous exprimer sur ces demi-finales qui viennent de passer. Si vous êtes supporter sénégalais, on a dit également supporter béninois aussi, n'hésitez pas, suite au retour des Béninois, il y a Jocelyne Senaoun aussi pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas à nous contacter au 01 55 07 58 00. Au 00 33 1 55 07 58 00, depuis partout dans le monde. Vous nous écoutez sur le 107.5 FM à Paris, à Melun sur le 92.3, à Mantes-la-Jolie sur le 87.6 et également DAB+ à Lille et dans les quatre coins de la France, bien sûr, pas qu'à Lille, pas seulement qu'à Lille, parce que on est présent également depuis quelques temps du côté de Saint-Nazaire, du côté de Nantes, dans la Loire-Atlantique. Et vous pouvez aussi nous écouter sur le www.africaradio.com. N'hésitez pas à réagir ou intervenir sur notre page Facebook slash tout feu tout foot pour nous donner votre avis et vous exprimer justement suite aux demi-finales qui ont eu lieu hier, on le rappelle, Sénégal-Tunisie, c'est le Sénégal qui s'est qualifié, qui a arraché son premier, le premier ticket pour la finale. C'est suivi bien sûr cette belle rencontre, ce beau match entre l'Algérie et le Nigeria. Et l'Algérie qui a remporté son match 2 buts à 1, pardon, face effectivement à une belle sélection du Nigeria. Suite à un très très beau but de Riyad Mahrez en toute fin de rencontre. On aura à cœur bien sûr d'écouter aussi les commentaires hein, de cette belle rencontre et notamment aussi les sélectionneurs. Mais avant, nous allons donner la parole à Dia qui est avec nous. Dia qui va s'exprimer justement sur ces sujets, sur les demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. Dia, on vous écoute Dia. Vous souhaitez réagir sur quel sujet, les demi-finales ou bien ce retour triomphant des écureuils du Bénin du côté de Cotonou? On vous écoute Dia.
Oui, je voulais rester sur le final.
Sur la finale, entre le Sénégal et l'Algérie ou sur les demi-finales plutôt?
À la série Sénégal.
D'accord, sur la finale Algérie-Sénégal. On vous écoute Dia, vous êtes supporter de quel pays?
Sénégal, moi je suis Sénégalais moi.
On vous écoute Dia.
Oui, parce que moi je voulais poser les questions à coach. Bon, si, pourquoi Aliou Cissé si contre un pays d'Arabes là, il n'est pas 4-4-2?
Et pourquoi il ne mettrait pas un 4-4-2? Pour l'instant, il n'a pas encore opté pour sa stratégie. On ne connaît pas encore la stratégie adoptée par Aliou Cissé. Face aux Algériens, c'est la surprise, c'est le suspense. Coach Lamine, votre réponse par rapport à notre auditeur sur Africa Radio, Dia qui pose la question justement, quelle stratégie va-t-il adopter Aliou Cissé? Et pourquoi pas un 4-4-2 face à l'Algérie pour le Sénégal?
Un 4-4-2 face à l'Algérie... Il a quand même au niveau du milieu de terrain quelque chose qui tourne jusqu'à présent avec Pape Aliou Ndiaye, Gana Gueye qui joue un peu plus 10 et puis sur les deux côtés il a quand même un Sadio Mané et de l'autre côté un Sarr ou un Crépin Diatta. Je crois que c'est un système qui lui réussit jusqu'à présent parce que jusqu'à présent c'est quelqu'un qui arrive à remporter ses matchs. Mais contre les pays maghrébins, comme il le demande déjà, c'est que la plupart du temps, quand vous regardez un peu les pays comme le Maroc, les pays comme l'Algérie, ils ont des défenseurs qui sont des ailiers qui sont très très forts. Vous avez Riyad Mahrez d'un côté et puis de l'autre côté vous avez un Atal qui défend beaucoup. Donc vous êtes obligé quand même de renforcer votre milieu de terrain. Non seulement renforcer votre milieu de terrain, mais surtout donner de la place à vos latéraux qui montent beaucoup. Quand vous avez un 4-4-2, les latéraux ont du mal beaucoup à monter parce que les côtés sont bouchés. Alors que là, si vous avez un 4-3-3, ça donne la possibilité à un garçon comme le défenseur qui joue à gauche de Bordeaux, qui puisse descendre et faire des centres. C'est ça qui est très intéressant.
Oui, effectivement.
J'aimerais revenir un peu sur la VAR concernant un peu
l'arbitrage vidéo. On vous écoute, Lamine.
Sur l'arbitrage vidéo, il faut comprendre une chose, c'est que cette VAR-là, heureusement qu'elle a été là sur ce match-là. Parce qu'effectivement, il y aurait pu y avoir pénalty. Tessema avait sifflé un pénalty, mais au niveau du CAR, on lui a demandé de venir voir. Effectivement, il y a eu une déviation du défenseur central sur la main de Gana Gueye. Maintenant, les règles ont changé. Comment il s'appelle notre correspondant, j'oublie son nom, j'arrive.
Vous parlez de Salim Layouni.
Salim, pardon.
Oui, c'est pas grave.
Alors, Salim, le ballon a été dévié par le défenseur sur la main. Aujourd'hui, les règles ont changé. Ce sont de nouvelles règles qui ont été établies par la FIFA qui fait il ne pouvait plus y avoir pénalty. Et vous avez bien vu qu'il y a eu un but qui a été accordé à l'équipe d'Algérie. C'était avec la déviation du dos du défenseur qui, avec l'égalisation, je crois que c'est l'Algérie ou le Maroc, et qui a permis à l'équipe du Maroc de revenir. Je crois que ça doit être une des deux équipes, ou même peut-être l'Algérie, je ne sais plus, où il y a eu la tête du défenseur du Maghreb qui a égalisé. Parce que le ballon a été dévié du dos du défenseur central du Nigeria. Donc ça veut dire que quelque part, ce sont des petits détails-là qui ont fait que la VAR a permis de voir des choses qu'on ne pouvait pas voir à main nue, comme ça, directement.
Mmh. Oui, effectivement. Effectivement.
Ce sont des petits détails.
On a pu voir, coach Lamine, on a pu voir des arbitres hein, qui ont géré plutôt parfaitement leur rencontre, leur match sans la VAR. On a vu un arbitrage pour l'instant, en tout cas, ça reste un des points positifs de cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire que. On peut le dire, les arbitres n'ont pas forcément eu besoin d'avoir recours à cette VAR, à cet arbitrage vidéo. Et sans ça, effectivement, le football était très intéressant, les matchs étaient très intéressants à regarder, à voir. On va remercier Dia, coach Lamine, d'avoir posé effectivement cette question.
J'espère que j'ai répondu à sa question.
Oui, il est satisfait, il nous fait un coucou justement depuis Africa Radio. Vous êtes sur Africa Radio, il est 20h52 heure française, 18h52 eh bien en temps universel. C'est le club de la CAN, le club de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous nous écoutez à Abidjan sur le 91.fm, à Paris sur le 107.5fm, à travers le monde sur le www.africaradio.com et en DAB+ à travers les quatre coins de la France. N'hésitez pas à réagir au 01 55 07 58 00. Vous êtes supporter du football africain, supporter d'une équipe qui a joué hier, le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie ou l'Algérie. N'hésitez pas, un seul numéro pour nous appeler. Eh bien, en France, 01 55 07 58 00, depuis l'international 00 33 1 55 07 58 00. On va écouter justement eh bien, Aliou Cissé, le coach du Sénégal. Eh bien, il s'était exprimé eh bien, au micro de nos confrères pour pouvoir justement remettre un petit peu dans l'ordre ce qui s'était dit auparavant et notamment aussi s'exprimer sur sa complicité avec Alain Giresse et sur tout ce qui s'était dit auparavant suite au passage d'Alain Giresse avec la sélection du Sénégal. En tout cas, c'est très apaisé entre les deux hommes, entre Aliou Cissé et Alain Giresse. En tout cas, on a l'impression effectivement de voir deux amis eh bien, en conférence de presse.
Oui, une fierté. Ça faisait 17 ans qu'on n'était pas arrivé à ce niveau-là depuis la génération 2002. Mais je crois que c'est à force de persévérance, à force de travail. Je suis du genre à vivre sur le banc de match. J'aime que les garçons soient... que j'aime être à côté de mes garçons, vivre leur souffrance, les pousser, aller au bout. J'ai envie de dire que c'est un travail qui ne dure pas seulement depuis 5 ans. Alain est là. Je le félicite parce que quand même il m'a légué un groupe. Il m'a aidé à connaître mieux le groupe. Quand il est parti, on a eu de longues discussions concernant le groupe. Cette qualification à la finale, c'est pour lui aussi. Parce que pour moi, il a fait un bon boulot au Sénégal. Il n'a pas eu la chance d'être en finale comme moi. Mais il fait partie aussi de ce travail. Bravo, voilà.
Les applaudissements eh bien, de cette salle de conférence de presse à l'issue de l'interview de Aliou Cissé par nos confrères qui s'étaient exprimés justement à propos de cette qualification mais notamment aussi sur sa complicité avec Alain Giresse et tenait à le remercier aussi du travail qu'il avait effectué avec le Sénégal et le gros travail qu'il avait fait bien sûr aussi de communication par rapport à la tactique hein, qu'il avait travaillé Alain Giresse qu'on aura probablement dans cette émission. On va essayer de le joindre dans quelques instants. On l'a eu juste avant, bien sûr, en conférence de rédaction pour s'exprimer à propos de cette petite finale qui va jouer contre le Nigeria. On aimerait bien la voir en direct et on va essayer on vous le promet, de la voir avec nous sur Africa Radio et dans le club de la CAN. Pourquoi pas pour cette deuxième partie. En tout cas, celui qui nous a rejoint, on tient à le saluer aussi. Il a fait un beau parcours, c'est avec la Mauritanie. Il est le représentant de la communication de la Fédération Mauritanienne de Football, les Morabitoun, comme on les appelle. Première qualification historique à cette Coupe d'Afrique des Nations dans une CAN. C'est Brahim Sow Denia qui nous rejoint sur Africa Radio, et bien sur l'antenne de la radio continentale. Je suis très heureux de vous avoir avec nous, Brahim. Bonsoir et bienvenue. Comment avez-vous vécu cette Coupe d'Afrique des Nations avec les Morabitoun, même si vous n'avez pas passé le premier tour? Ça a été quand même une bonne expérience footballistique dans cette CAN avec la Mauritanie.
Bonsoir Hakim, je suis déjà très content d'être parmi vous de nouveau. Un grand plaisir pour moi d'être sur la radio africaine de Rhin.
Bah écoutez, c'est pour nous un bilan assez positif, parce que il est vrai qu'on aurait souhaité avoir un parcours similaire à l'équipe surprise qui a été Madagascar, ou toutes les autres équipes qui ont réussi à aller très loin dans la compétition. Mais pour nous, c'était un bilan très positif, même si c'est vrai que l'entrée en lice était un peu difficile avec cette lourde défaite contre le Mali. Mais l'équipe a su relever la tête très rapidement et on a pu terminer cette CAN avec deux matchs nuls, dont un contre la Tunisie, demi-finaliste de la compétition. Donc bilan très, très positif pour nous. Je pense qu'on pourra se baser sur ce parcours pour construire quelque chose d'intéressant à l'avenir.
Oui, effectivement, construire d'intéressant, quelque chose d'intéressant à l'avenir. Il y a Jocelyne Senaoun qui est avec nous, journaliste du Bénin pour la Radio Nationale. Jocelyne, une question à Brahim, représentant de la communication de la Fédération Mauritanienne de Football, les Morabitoun, qui sont avec nous aussi ce soir sur Africa Radio, après leur beau parcours, effectivement, et cette première participation à une CAN. Est-ce que vous avez une question, Jocelyne, pour Brahim?
Est-ce que j'ai une question? Ma question, c'est de savoir comment se porte la sélection actuellement, quels sont les objectifs à court et à long terme des Morabitoun pour les prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Voilà.
Merci pour la question. Déjà, bonsoir. Pour nous, l'objectif aujourd'hui, c'est, comme j'ai eu à le mentionner plusieurs fois sur cette même radio, c'est de pérenniser les acquis. On sait que le plus difficile est de maintenir une certaine forme de régularité, c'est-à-dire participer au CAN à venir, au maximum de Coupe d'Afrique en tout cas, parce que c'est ce qui permettra à la Mauritanie de faire partie de ces équipes qui habituellement participent à la Coupe d'Afrique. Et c'est ça qui sera aujourd'hui le plus difficile. De participer à une première CAN, d'accord, c'est très très bien. Mais le plus compliqué, c'est de participer à toutes les CAN à venir. Donc là, on se replonge déjà au travail. On sait que le tirage au sort de la prochaine CAN est prévu pour jeudi prochain, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire le 10 août. On attendra connaître nos adversaires dans la poule dans laquelle sera logée la Mauritanie. Les éliminatoires démarreront en octobre, si je ne me trompe pas non plus.
Ouais, exactement.
Donc là, c'est de se remettre au travail et
préparer ses échéances
pour les prochaines éliminatoires. Et aussi le mondial, parce que j'oublie pas que c'est aussi quelque part un objectif avoué, même du président de la Fédé qui l'a dit à plusieurs reprises.
Ouais.
Ce serait un rêve pour nous après avoir goûté à la Coupe d'Afrique, même si c'est beaucoup plus compliqué de se qualifier en Coupe du Monde. Mmh. Mais le tirage au sort, c'est le 27 et on va aussi travailler pour ça, quoi.
Ouais. Travailler pour ça, effectivement, parole de directeur de la communication de la Fédération Mauritanienne de Football, Brahim Sow Denia, qui est avec nous en direct sur Africa Radio, sur la radio continentale, sur le 91.fm depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, et sur le 107.5fm à Paris. Vous nous écoutez aussi depuis l'international sur le www.africaradio.com. Merci Jocelyne pour cette question. Restez avec nous Jocelyne, on va aborder d'autres points, on va peut-être poser une question à Brahim Sow Denia sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est la sélection qui vous a le plus impressionné? Quelles sont les deux sélections qui vous ont le plus impressionné, Brahim?
En premier lieu, c'est l'Algérie, à juste titre, ils sont en finale. Je pense qu'en termes de jeu, c'est l'équipe, la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique. Et franchement, si elle remporte ce trophée, ça ne sera que mérité. Je pense que, mis à part ce match contre la Côte d'Ivoire où ils ont peiné et ont été conduits au tir au but, les autres matchs, ils les ont gagnés, je dirais pas facilement, mais ils avaient quand même une forme de maîtrise qui était assez évidente. Pour moi, honnêtement, la meilleure équipe, c'est l'Algérie. Après, moi, je suis un peu friand de beaux jeux. Je classerais le Mali en deuxième position parce que pour moi, c'est une équipe qui m'a aussi impressionné. Déjà, on a joué.
Vous étiez dans leur poule.
Ouais, tout à fait. Et pour moi, en termes de jeu, l'équipe la plus impressionnante après l'Algérie, c'est le Mali. Mmh. C'est vrai que c'est une jeune équipe, ils ont
24 ans en moyenne d'âge.
Voilà, pour aller au bout. Mais pour moi, après l'Algérie, c'est clairement le Mali. Ouais. Après, il y a l'expérience qui a joué, le talent individuel qui a joué pour des nations comme le Sénégal. Mmh. Le Maroc aussi, ils étaient pas mal. Les individualités n'ont pas, peut-être pas été au rendez-vous.
Tout à fait.
Mais clairement, pour moi, c'est l'Algérie et après le Mali, quoi.
Ouais. Ouais, effectivement, l'Algérie et le Mali qui ont bel et bien impressionné dans cette compétition. Le coach Lamine qui est avec nous, on le rappelle, il y a Sidi aussi qui nous a rejoint. Restez bien avec nous, Brahim Sodenia, on le rappelle, directeur général de la communication de la Fédération des Morabitounes, la Fédération Mauritanienne de football, qui est avec nous en direct sur Africa Radio. Jocelyne Senaoun aussi, journaliste, eh bien, du côté du Bénin, du côté de Cotonou, pour la Radio Nationale. Le coach Lamine qui est avec nous aussi. On a Amadou qui nous a rejoint, et bien fidèle auditeur aussi qui a des questions peut-être, il souhaite s'exprimer sur les demi-finales, sur la finale à venir ou la petite finale. Il y a Sidi aussi qui nous a rejoint, on va peut-être poser ouvrir le micro à Sidi. Bonsoir Sidi, comment ça va? Allô? Alors on va Sidi qui est en stand-by, donc on va prendre Amadou qui est avec nous. Bonsoir Amadou, vous êtes supporter de quel pays?
Moi je viens du Sénégal.
Ouais, comment ça va, Amadou?
Ouais, ça va.
Supporter du Sénégal.
Ouais, supporter du Sénégal.
Alors, vous voulez réagir sur les demi-finales, sur la finale qui va arriver contre l'Algérie?
Sur l'équipe du Sénégal, sur la finale aussi.
Oui, on vous écoute.
Coach.
Ouais.
Sur Mbaye Niang, je comprends pas pourquoi il insiste avec Mbaye Niang. Mm-hmm. Il a laissé jouer au moins 5-6 matchs. Il a raté beaucoup d'occasions.
Ouais.
On voit que physiquement, ça va pas. Il est lourd. À chaque occasion, il tombe. Il laisse pas la chance à Diagne, qui a été meilleur buteur en Turquie. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre.
Ouais, vous arrivez pas à comprendre le choix du sélectionneur Aliou Cissé pour l'utilisation de Mbaye Niang. Mais,
qui rentre blessé sur le dernier match, qui décide à la dernière minute, alors qu'il y a des attaquants sur le banc, qui sont là, à qui il a pas laissé leur chance. J'arrive pas à comprendre sur ça.
On le rappelle, hein, l'international sénégalais qui évolue du côté de Rennes en France. Il est natif effectivement des Yvelines. Sidi, restez bien avec nous. On va poser la question bien sûr sur ce plateau. Coach Lamine, le Sénégal qui a remporté son match malgré effectivement le dénouement de cette rencontre. On l'a dit, le Sénégal qui est à sa place et bien sûr malgré effectivement ce classement numéro 1 au classement FIFA numéro 1 en Afrique. On le rappelle, le parcours du Sénégal en Égypte a été difficile, hein. C'est un peu comme une croisière sur le Nil avec pas mal de complications, coach Lamine, mais les choix tactiques ont été plutôt bons pour le coach Aliou Cissé, parce que il a vu son équipe tout simplement rejoindre ce stade des finales. Que dites-vous, coach Lamine, à Sidi qui nous appelle et qui nous donne son point de vue sur ce choix tactique préféré de Aliou Cissé par rapport à Mbaye Niang?
Mais d'abord de la confiance, il faut donner de la confiance à Mbaye Niang. Je crois que intrinsèquement, il est meilleur que Mbaye Diagne. Pourquoi? Parce que à chaque fois, vous avez bien vu qu'il s'entend mieux sur le plan du jeu avec Sadio Mané,
ouais.
Sur le fait que Mbaye Niang a une qualité, c'est la qualité de jouer en pivot et de jouer en 1-2. C'est vrai que dos au but, c'est complètement difficile par rapport à l'avant-centre de l'Algérie qui, lui, va dans le but en profondeur. Ce n'est pas la qualité de jeu de Mbaye Niang. Mbaye Niang joue en pivot et joue en 1-2 avec Sadio Mané. Donc, il faut reconnaître que Aliou Cissé a fait des essais sur Mbaye Diagne. Mais Mbaye Diagne, franchement, il est moins doué que Mbaye Niang.
Ouais.
Si on doit regarder vraiment dans l'apport du jeu, parce que Mbaye Niang, décidément on va y arriver, réussit à peser sur une défense. C'est pourquoi vous voyez qu'il prend beaucoup de coups, mais c'est quand même quelqu'un qui vraiment, quand on le voit jouer dans cette sélection-là, prend beaucoup de coups, beaucoup de risques. Et quelquefois il arrive devant le but, il manque un peu de lucidité, mais c'est quelqu'un qui va réussir à faire quelque chose. C'est pourquoi, à mon avis, Aliou Cissé lui fait confiance. Alors, par contre, je voudrais donner un point de vue sur les Mirabitounes. Je pense que Sow est encore là.
Oui, Brahim Sodenia est toujours avec nous, oui, tout à fait.
Oui, alors, Brahim, félicitations pour cette équipe de Mirabitounes.
C'est une équipe que je connais bien parce que je les ai vus traverser un peu tout ce qu'on appelle un travail. C'est-à-dire un travail de longue haleine. À ce moment-là, même un de mes joueurs qui s'appelle Guidile Diallo était le capitaine. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Pardon, je ne vous entends pas.
Oui, il s'en souvient, coach Lamine.
Je m'en rappelle très très bien. Hein. Je m'en rappelle très très bien.
Ouais. Alors, Guidile,
à l'époque Guidile. Où Patrice était encore entraîneur.
Patrice Neveu, hein, qui avait remporté le CHAN 2014.
Alors, je crois que d'ailleurs, le frère de Guidile, et puis je crois que certains nombres qui ont réussi à faire venir Corentin Martins, si mes souvenirs sont exacts, pour pouvoir prendre la relève et continuer à travailler. Et ce qui a été exceptionnel avec les Mirabutun, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail. Ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes.
Tout à fait.
Ils ont travaillé et aujourd'hui, ils récoltent les résultats. Et moi, je les vois continuer. La seule chose, et que je vais titiller quand même mon voisin de la Mauritanie, c'est qu'il nous pique beaucoup de joueurs du Sénégal. Hein.
Oh, ça, c'est pas vrai, coach Lamine. Je ne suis pas d'accord. on n'est pas d'accord ici. Brahim voulait réagir par rapport à ce que vient de dire Lamine. Et c'est vrai que quand on a vu effectivement la Mauritanie remporter le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, la vitrine des joueurs locaux, hein, on le rappelle, avec à sa tête Patrice Neveu, Corentin Martins s'est arrivé un petit peu les pieds effectivement installé sous la table, avec tout installé et avec un gros travail qui avait été effectué par tout le staff hein, technique entouré de Patrice Neveu et tous ceux qui étaient avec lui.
Tout à fait, hein, tout à fait, vous l'avez très bien résumé. Vous savez, pour nous ici, il est extrêmement important de travailler sur la continuité. À l'arrivée de Patrice Neveu, c'est vrai qu'à l'époque, la nouvelle fédération, avec à sa tête M. Ahmed Yahia, venait d'arriver. Et la Mauritanie traversait une période très, très, très compliquée où on était suspendu quasiment pour toutes les compétitions internationales. Donc, le mérite de Patrice Neveu, c'est d'avoir débuté, si vous voulez, sur aucune base. Et il avait réussi à construire avec noyau local une base très, 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 qui a réussi même à qualifier la Mauritanie pour le CHAN 2014.
Ouais.
Et à l'arrivée de Corentin Martins, il avait trouvé cette base-là, sur laquelle il a continué, qu'il a, si vous voulez, perfectionné, avec l'apport de pas mal de joueurs expatriés et binationaux. Donc, ce qui nous a valu aussi cette qualification. Donc, forcément, cette régularité était très importante. Mais pour répondre à
coach Lamine,
la remarque du coach, déjà, merci, parce que je me rappelle très bien de cette période où Diallo Guidile était le capitaine de la sélection. Et c'est vrai qu'on a eu à faire abattre un travail assez, assez important ici au niveau local. Parce que vous savez, on n'a pas cette chance comme le Sénégal ou nos autres voisins d'avoir un noyau extrêmement fourni de joueurs expatriés. Donc nous, on doit travailler 3 voire 4 fois plus pour essayer, pas de rivaliser, parce que ça c'est un gros mot pour moi, mais de se rapprocher de ce qui se fait à côté de chez nous. Mais par rapport à nos footballeurs qui sont supposés être d'origine sénégalaise, bon, peut-être pas sans savoir que la Mauritanie et le Sénégal sont déjà deux pays frontaliers et partagent une histoire. Et je vous rappelle pas non plus que la capitale de la Mauritanie avant l'indépendance était Saint-Louis. Des grandes villes du Sénégal.
Une grande proximité entre les deux pays.
Exactement. Donc, il y a énormément de Mauritaniens, des noms de famille que l'on partage. Mais c'est bien des Mauritaniens, ça, je le confirme une nouvelle fois. D'ailleurs, moi, mon nom de famille, c'est ça. Je suis Mauritanien à 100%. Et je pense qu'il y avait un ancien attaquant de l'équipe du Sénégal qui s'appelait Moussa Sow. Donc,
exactement.
Voilà, ça.
Ça, ceci explique cela.
C'est la particularité des pays de la sous-région comme le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, la Mauritanie. On retrouve ces similarités-là. Donc, c'est la richesse culturelle de notre pays aussi et on s'en réjouit, quoi.
Ouais, effectivement, et puis la Fédération Mauritanienne de Football hein, qui est réjouie justement par rapport à ce parcours et cette première qualification à cette Coupe d'Afrique des Nations, c'était historique, on s'en souvient, c'était l'année dernière avec emmené par bien sûr tout le staff accompagné de Corentin Martin, c'est vous Brahim Sodenia aussi à la direction de la communication. On va vous remercier Brahim Sodenia d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes représentant de la direction de la communication de la Fédération de Mauritanienne de football. On vous remercie beaucoup d'avoir été sur Africa Radio avec nous pour vous exprimer justement sur le parcours de la Mauritanie. C'est ça, Africa Radio, on donne la parole à tout le monde, à tous les pays. Il n'y a pas de petite nation, hein. C'est ouvert à tout le monde et en tout cas, on était très heureux de vous avoir avec nous.
Ouais, écoutez, c'est toujours un plaisir pour moi et c'est plutôt moi qui vous remercie. Je remercie aussi tous ceux qui sont avec vous sur ce plateau et on vient très très bientôt.
Merci beaucoup Brahim Sodenia d'avoir été avec nous sur Africa Radio. Et bien Christian Chango nous a rejoint. Bonsoir Christian, comment ça va?
Bonsoir Hakim.
Comment avez-vous vécu ces demi-finales hier, des demi-finales de folie avec le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria, deux belles demi-finales qu'on a suivies ensemble sur Africa Radio.
Oui exact, deux belles demi-finales. Bonsoir à tous nos éditeurs, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous en plateau. Deux belles demi-finales. J'ai plus apprécié, bien sûr, le match entre l'Algérie et le Nigeria. Il y a eu de tout, des actions, du dribble, des fautes, la VAR, le finish exceptionnel avec le coup franc de Mahrez. Donc, c'était vraiment les demi-finales que j'ai apprécié, surtout ce match entre l'Algérie et le Nigeria. Et globalement, sur la compétition, pour moi, quelque chose qui fait partie des tops de la compétition, c'est les pelouses.
Ouais.
Les pelouses,
ce sont de bons terrains pour
exactement.
L'instant.
Quand on compare avec la CAN précédente au niveau du Gabon, c'était très compliqué. Désolé Phil si tu nous écoutes, mais les pelouses au Gabon, c'était pas ça. Et là, on a vu sur cette compétition, malgré les températures très élevées, on est au fait un très beau vert. On est au courant des infrastructures du côté de l'Égypte et vraiment, ça fait partie de mes tops, au-delà bien sûr des équipes dont on va parler dans le détail.
Tout à fait. Alors que Léopold nous a rejoint Aiko Mopongi. Il est avec nous aussi, Aiko Mopongi. On va lui donner la parole. Bonsoir, Aiko Mopongi. Vous souhaitez réagir sur ces demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations sur Africa Radio. Le micro est ouvert, Aiko. Comment ça va?
Ouais, ça va bien. Vous.
Ça va très très bien, salut, Aiko Mopongi. Ouais. Comment avez-vous vécu ces demi-finales, Aiko? Et allez, peut-être un petit pronostic entre le Sénégal et l'Algérie. Vous voyez comment ce match, cette grande finale entre l'Algérie et le Sénégal?
Moi, l'Algérie et le Sénégal, parce que je crois vraiment, le Sénégal ne joue pas bien, l'Algérie va gagner la Coupe. Parce que l'Algérie joue bien, on a vu ça avec le Nigeria.
Ouais.
Le Nigeria a joué bien, mais comme l'Algérie, il y avait une bonne équipe, il y avait des bons joueurs. Ils ont montré qu'ils ont vraiment le football dans les pieds. Ils ont battu le Nigeria 2-1, vraiment, ils ont bien joué. Mais si le Sénégal joue comme ils ont joué avec la Tunisie, c'est vraiment l'Algérie qui va gagner le match. Moi, je crois que c'est 0 bien 3-1. C'est ça mon pronostic. Parce que l'Algérie, ils jouent bien, ils ont une bonne équipe. C'est vraiment, ils ont des talents. Et le Sénégal, il n'y a pas vraiment des joueurs qui jouent bien le ballon, quoi. Mais ils hésitent, ils tirent jamais, ils roulent jamais. C'est ça moi, je crois que l'Algérie qui va gagner la Coupe. Ouais.
L'Algérie pour Aiko Mopongi qui pourrait gagner la Coupe. Woody Dorkenou qui nous a rejoint aussi. Bonsoir Woody Dorkenou. Comment ça va?
Oui, très bien, ça va. Quand le foot, ça va.
Impeccable. Quand il y a le foot, ça va. Installez-vous confortablement. On est tous ici présents avec aussi Jocelyne Senaroun depuis le Bénin. Merci à Aiko Mopongi d'avoir été avec nous sur Africa Radio. On va prendre Lassana qui est avec nous ce soir. Lassana, bonsoir. Comment ça va, Lassana? Comment vous avez vécu ces demi-finales et cette belle finale qui va suivre sur Africa Radio le vendredi 19 juillet sur notre antenne? Une grande affiche, hein, tout simplement. De football entre le Sénégal et l'Algérie. Qu'en pensez-vous?
Bonsoir à Kim, bonsoir à Willy, bonsoir. Ça va?
Salut Baba, ça va et toi?
Ouais. Non, c'est Lassana.
C'est Lassana.
Ah, Lassana, ouais, pardon, ouais, excusez-moi.
Bonsoir Lassana, allez-y, on vous écoute Lassana.
Moi, je suis content pour l'Algérie parce que Moi, je favorise depuis l'Algérie, depuis quand n'est pas commencé. Comme je vois tous les journalistes qui sont favoris, Égypte, Maroc, Sénégal, non. Moi, j'ai dit mon favori, c'est l'Algérie depuis longtemps. Mm-hmm. Voilà, moi, je suis bien content pour l'Algérie. Malgré que nous, on a Mali, si Mali sont éliminés, c'est sûr qu'Algérie va prendre le coup.
Ouais.
C'est ça que moi je vois, quoi, parce que l'Algérie n'a pas battu Mali, mais l'autre équipe, moi je sais qu'Algérie, ce que je vois, l'Algérie, les manières qui sont jouées, franchement, ça me plaît, parce qu'Algérie, cette année, ils sont changés de jouer, ils jouent quand ils ne calculent pas, il n'y a pas de souci. Algérie, même quand ils marquent un but, tout ce qui est des hommes, il va réagir, quoi. Tu vois?
Ouais,
voilà, moi je suis content pour l'Algérie. Je suis
très content pour l'Algérie. On l'entend bien, Lassana. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un petit mot par rapport à la sélection du Mali. On a entendu Brahim Sow Denia tout à l'heure, le directeur de la communication de la Fédération de Mauritanienne de football, qui s'est exprimé justement au sujet de ses sélections préférées. Il a parlé aussi de l'Algérie, mais aussi du Mali, en disant que le Mali avait fait aussi un beau parcours et avait montré de choses intéressantes. Christian Chambon.
Oui, bien sûr, pour le Mali, même si le Mali a été éliminé, le Mali sur cette compétition a été une des équipes les plus plaisantes à voir jouer. Tu l'as précisé, on le sait, c'était l'équipe la plus jeune qu'on a vue sur cette compétition. Et malgré l'élimination sur leur défaite face à la Côte d'Ivoire, on a vu vraiment ce qu'était le Mali, une équipe joueuse qui tente beaucoup, mais qui n'a pas réussi à conclure sur ce match-là et qui s'est fait avoir sur une erreur. Mais vraiment, on a vu de belles choses pour l'avenir. C'était vraiment pour le Mali un échelon.
Faut retenir tout ce qui est positif.
C'est ça. Et tous les joueurs qui ont pris cette expérience sur cette compétition, il faut capitaliser dessus pour la prochaine CAN, pour les prochains éliminatoires qui vont débuter. Et il faut que ces jeunes joueurs-là soient confortés dans leur choix de défendre le pays du Mali. Ouais. Mais vraiment, le Mali fait partie, assurément, et tous les auditeurs sont d'accord là-dessus, des équipes les plus plaisantes à avoir joué, même s'ils sont sortis en 8e, ils se sont fait éliminer par la Côte d'Ivoire.
Ouais. Willy Dorkenou, la sélection qui vous a le plus impressionné, les sélections qui vous ont le plus impressionné dans cette Coupe d'Afrique des Nations, à ce stade de la compétition?
Oui, il y a le Mali, une équipe un peu jeune, mais qui a manqué de réalisme face à la Côte d'Ivoire. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ces équipes-là, les équipes que j'ai vues et qui m'ont plu, doivent rester dans cet élan-là. Mais j'ai peur qu'en Afrique, on va essayer de d'attaquer l'entraîneur et malien. Il a fait du bon travail.
Peut-être vous pensez que la fédération serait prête à l'écarter?
Oui, parce que ces genres d'entraîneurs sont plus faciles à écarter, ce qui est dommage. On a vu, la plupart des équipes sont en bonne situation, mais le problème qui se pose, il faut analyser la chose. Il ne faut pas réagir en supporter. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils s'en prennent. On a vu l'équipe de la Côte d'Ivoire par rapport à leur dernier match, mais c'est une équipe en reconfection, mais ils ont bien réagi. Si on gardait cette équipe-là, ils peuvent faire de belles choses. Donc, il faut essayer de garder les équipes. Les équipes comme la RDC, il y a tout à refaire là-bas. Ils ont un bon coach, mais il y a tout à refaire. Or, la Côte d'Ivoire, on peut garder ce système et aller améliorer quelques trucs. Donc, Or, l'Algérie, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Algérie? L'Algérie a changé de jeu. Les gens n'ont pas su. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 90, les équipes d'Afrique du Nord, ils ont baissé, sauf l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte joue technique et physique en même temps. C'est ce que l'Algérie a fait dans ce tournoi. Il faut remarquer ça. Tandis que l'Algérie jouait du petit jeu, trop fin avant. Donc, elle se faisait avoir. Maintenant, l'Algérie a changé. Ils ont du tonus et de la technique en même temps. Donc, il faut bien analyser les situations.
Éliminé par la Côte d'Ivoire en 8e de finale de la CAN à 1-0, hein, dans un match qu'elle avait pourtant effectivement plutôt bien géré. Le Mali qui a effectivement quitté la compétition, mais qui a de belles leçons retenir.
Ils ont prouvé de belles choses. Donc, il faut garder cette équipe-là. Parce qu'on n'est pas finaliste de la Coupe du Monde U17 par hasard. Et champion d'Afrique U20 par hasard. Et arrivé
24 ans moyenne d'argent, on rappelle.
C'est ça. Donc, il faut garder cette équipe, mais garder aussi le coach et avoir la tête froide et continuer à travailler. Parce que j'entends déjà, on s'en prend à des entraîneurs, des choses, ça ne sert à rien du tout. On a vu, en finale de la CAN, il y a deux entraîneurs qui sont du cru. On a vu ce que Zagallo a fait avec le Brésil. Quand on est du cru, on arrive à maîtriser l'équipe. Ouais. Donc ces bandes de touristes-là, arrêtez avec ça.
Lamine, vous avez été au premier rang pour écouter un petit peu ce qui s'était passé du côté du Mali avant qu'ils s'envolent, les aigles du Mali pour cette belle compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. C'était avant, bien sûr, cette conférence qui avait eu lieu entre la FIFA et la Fédération malienne de football pour régler un petit peu quelques points, quelques litiges qu'il y avait au sein même de cette fédération. Comment avez-vous vécu et comment vous avez tout simplement analyser cette sélection malienne dans cette compétition?
Écoutez, cette sélection malienne, c'est une sélection qui se connaît depuis longtemps, hein, parce que faut reconnaître que même pendant les éliminatoires, ils avaient le même coach, ils avaient le même groupe. Ce dont les gens avaient peur, c'était que cette sélection-là soit suspendue. Ça n'a pas été le cas, tant mieux. Mais elle est encore friable et je pèse mes mots pour que les gens comprennent bien pourquoi je le dis et pourquoi on le croit. C'est-à-dire que c'est des jeunes d'une moyenne d'âge de 24 ans. Sur le plan défensif, ils ont encore des lacunes parce que tout simplement ils sont jeunes. Et quand ils auront le bagage de gens comme Koulibaly, des gens comme des défenseurs plein d'exemples de joueurs qui ont beaucoup d'expérience, ils sauront qu'il y a des fautes qu'ils ne peuvent pas faire à l'entrée, il y a des fautes des jeux ou des défenses qu'il faudra faire attention, etc. Donc l'un dans l'autre, cette équipe malienne là, elle a joué sa chance jusqu'au bout. Elle a été exceptionnelle, elle a donné du spectacle, mais le spectacle ne suffit pas seulement, c'est ce que aujourd'hui on voit avec l'équipe du Sénégal. Elle ne donne pas de spectacle, mais elle gagne 1-0, elle souffre, elle gagne 1-0, elle souffre, elle gagne 1-0, et elle arrive à la finale. Et c'est le résultat quelquefois qui compte. Aujourd'hui, tout le monde s'extasie par rapport à l'équipe de l'Algérie. C'est vrai, c'est une belle équipe, un bon collectif. Ce que Belmadi a ramené, effectivement. Mais, je veux dire, tout à l'heure je le disais, j'aimerais bien savoir comment se comporterait l'équipe d'Algérie si elle est menée, ne serait-ce que 1-0.
Ouais, ouais.
Parce que jusqu'à présent, c'est elle qui mène, qui arrive à marquer des buts. Mais mettons-nous dans l'hypothèse où elle est menée 1-0 ou 2-0. Est-ce qu'elle aura la capacité de revenir sur un match comme le font par exemple les Nigérians? Ça, je ne sais pas.
Ouais.
Et même le coach lui-même, Belmadi, se pose la question. J'aimerais bien savoir comment se comporterait mon équipe si elle est menée 1-0.
Mm-hmm. Ouais, donc, effectivement.
C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, même depuis quelques temps, on a vu une équipe algérienne qui peine. Elle a été dominée. Elle a été dominée en deuxième mi-temps par l'équipe du Nigeria. Vous l'avez bien vu.
Oui, tout à fait, ouais.
Et elle a marqué, et il y a eu ce coup franc qui a vraiment estomaqué. Mais
c'est quand même la sélection algérienne qui a proposé un petit peu de jeu en avant, coach Lamine.
Pardon ?
C'est quand même cette sélection algérienne qui a proposé du jeu vers l'avant, qui a provoqué.
C'est en première mi-temps, ça. En deuxième mi-temps, ils ont subi, Hakim. Deuxième mi-temps, ils ont subi. Et ils ont eu ce coup franc contre le cours du jeu. Pour marquer ce coup franc qui a estomaqué le doyen, parce qu'il avait bien dit on ne fait pas de coup franc à cette position-là.
Ouais,
deuxième mi-temps, jusqu'au pénalty,
ouais.
C'était la. Regardez, je demande à Christian Chango de regarder la deuxième mi-temps par rapport à la position de jeu.
Willy Dorkenou qui va réagir justement par rapport à ce que vous avez dit, coach Lamine.
Oui, il a raison globalement, mais le problème qui se pose quand vous regardez très bien cette équipe d'Algérie, vous allez remarquer que c'est la meilleure défense et la meilleure attaque du tournoi. Et quand ils avaient mené 1-0, tenir en face du Nigeria avec les attaquants que le Nigeria a et ne pas encaisser de but, c'est une prouesse. C'est une prouesse défensive. Donc cette équipe-là, jusqu'à la fin de ce tournoi, je ne les vois pas mener par une équipe. Parce que c'est impossible. Parce que tenir en face du Nigeria, parce que l'une des attaques dangereuses de ce tournoi, mais l'Algérie a tenu pendant très très longtemps. Donc l'Algérie est une équipe très équilibrée. En attaque et en défense. Meilleure attaque et meilleure défense. Mais donc, quand on est équilibré comme ça dans un tournoi, mais on survole le tournoi, c'est ce que l'Algérie a fait.
Ouais. Christian, votre avis sur ce que vient de souligner Willy et également Lamine Badiane ?
Eh ben écoutez, je vais rejoindre ce que le coach a dit. C'est vrai que l'Algérie est une assurément des 2-3 meilleures équipes de cette compétition. Et le coach Belmadi l'a justement souligné. Là, l'Algérie n'a pas été dans un confort. Ils ont su se défendre et toujours ouvrir la marque. Mais c'est vrai que on les a pas vus encore dans une situation où ils sont menés. Ouais. C'est dû à leur talent. Ce que ça veut dire qu'aucune équipe n'a réussi à les mettre en difficulté pour les prendre et les mener au score, mais ça permettra aussi de voir la capacité de réaction de ces joueurs. Donc, mais je pense qu'avec le coach Belmadi, de toute façon, ils sont parés à pas s'endormir sur leur laurier, et même s'ils sont dans une confiance légitime, vu qu'ils ont fait un parcours jusque-là assez exceptionnel, et ils ont un peu l'avantage sur le Sénégal, puisque en phase de poule, ils les ont battus, mais rien n'est fait. Sur la finale, ça va être différent. Il va y avoir la crispation, le stress, l'enjeu. Et là, ça va être autre chose aussi. Donc, il faut. Mais je pense que le coach Belmadi, bien sûr, va le dire à ses joueurs de rester vigilants et surtout ne pas croire que ce qui a été fait en match de poule va être la même chose que sur la finale, malgré les certitudes.
On va se retrouver justement après une petite pause pour, pourquoi pas parler de cette finale entre l'Algérie et le Sénégal. Avant, on écoutera aussi, des commentaires qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait tout simplement transpirer autour de ces matchs et de ces demi-finales sur Africa Radio. Vous êtes sur la radio africaine justement pour nous écouter dans le cadre de ce club de la CAN, débrief de ces premières phases finales, on le rappelle, débrief de la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations avant d'entamer la petite finale mercredi sur notre antenne sur Africa Radio, et la grande finale qui sera aussi à suivre avec nos commentaires vendredi 19 juillet 2019, restez bien avec nous. La suite du club de la CAN, c'est dans quelques secondes.
Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Oui. Le club de la CAN, présenté par Hakim Jelouat sur Africa Radio.
De retour dans le club de la CAN, il est 21h29 et on écoute ses commentaires sportifs.
Algérie, Nigeria, super demi-finale au Caire ce soir pour savoir qui affrontera le Sénégal vendredi prochain en finale de cette CAN 2019 en Égypte avec Mahrez. À l'attaque l'Algérie, à l'attaque Mahrez, en un contre un, il est passé. Riyad Mahrez s'est détourné et le but contre son corps. Trost et Combe qui se rate, un ballon deux fois détourné et l'Algérie qui est devant. Gros travail de Riyad Mahrez, les Fennecs mènent 1-0 face aux Super Eagles. Belaïli, Mahrez près du ballon, le chrono est sans équivoque, c'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper, le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort. Oh, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Énormissime, sublimissime coup franc. Les Algériens rejoignent les Sénégalais vendredi prochain dans ce stade international du Caire.
Et on a entendu bien sûr les commentaires de Julien Brun, commentateur sportif et journaliste pour une grande télé sportive. Il nous a fait vibrer lui aussi, Willy Dorkenou, Christian Chango, Lamine Badiane. Des commentaires qu'on a aussi partagés à travers la radio africaine et qu'on vous fera partager bien sûr ce mercredi pour la petite finale entre la Tunisie et le Nigeria. Ça aussi c'est une grande affiche pour une place de 3 et cette grande finale pour tout simplement voir qui de l'Algérie ou de Sénégal va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations édition 2019. On vous fera vibrer, on vous fera tout simplement vivre ces commentaires en direct sur la radio africaine. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette compétition. On sera du côté du club Georges Ier avec toute l'équipe technique, Maxime Salin, Valentin Blanc, Antoine Cruchon, Simon Ross aussi avec nous pour nous accompagner dans le cadre de cette compétition de Coupe d'Afrique des Nations. Et bien vous avez entendu messieurs les commentaires sportifs avec un certain joueur que l'on on appelle Riyad Mahrez, qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue il y a quelques années avec Leicester, et aujourd'hui où il évolue maintenant du côté de Manchester City. Est-ce que ça peut être effectivement ce type de joueur qui peut inquiéter cette sélection sénégalaise? À lui tout seul, il a réussi à inscrire, eh bien, en tout cas à faire inscrire deux buts. Le premier sur eh bien, un bon service côté droit avec un centre dévié par le défenseur nigérian, et le deuxième but en coup franc pour plier le match et mettre KO le Nigeria.
Oui, je te l'avais dit quand j'ai regardé le match que si moi je sais qu'il y a des joueurs comme Mahrez en face de moi, je ne ferai jamais de faute en face de mon but à la dernière minute. Ça, je te l'avais dit avant même la faute. Je savais que mieux vaut faire un pénalty clair et les gens sauront que tu as fait un pénalty. Il va marquer. Clair et net. C'est un joueur très technique. Mahrez est meilleur joueur de la Première Ligue. Ce n'est pas un hasard. C'est un très grand joueur. Et au niveau de l'Algérie, il n'y a pas que lui.
Ouais.
Donc, on dit que le Ekong a marqué contre son camp. Mais il y avait une pression énorme de
gros match, gros match des Congo également.
Il y a Bounega
qui ce but.
Ouais, mais il a marqué le but parce que Bounega avait une pression terrible sur lui. Mm-hmm. Il savait pas quoi faire. Donc les Algériens étaient omniprésents dans le jeu. Donc,
l'omniprésence dans le jeu des Algériens dans ce match demi-finale de fou, demi-finale de rêve entre le Nigeria et l'Algérie. Christian Chango, du Caire à Alger en passant par Paris, Marseille ou Montréal, les mêmes scènes de liesse eh bien, ont tout simplement eh bien, vu cette équipe algérienne qualifiée pour la finale de la CAN. Un rêve hein, que souhaite offrir Jamel Belmadi à tous les supporters algériens. Près de 30 ans après l'unique sacre de son histoire, c'était en 1990. Le coup franc magistral, on l'a entendu par les commentaires de Julien Brun, de Riyad Mahrez, inscrit dimanche dans les dernières secondes de la demi-finale contre le Nigeria, a provoqué une onde de joie dans la salle où Georges Premier, où nous étions avec toute l'équipe, Lamine Badiane, avec vous-même, messieurs, et toute l'équipe technique également. Riyad Mahrez, est-ce qu'il peut faire la différence à lui tout seul ou tout cet effectif, tout ce collectif algérien face au Sénégal?
Justement, c'est ça en fait. La différence, c'est que avant, hormis depuis qu'il y a plus, depuis que le coach Vaïd et Christian Gourcuff, l'équipe d'Algérie était plus une somme d'individualité. Et là, tu m'aurais posé cette question à cette époque-là, je t'aurais dit oui, éventuellement, bien sûr, le talent de Mahrez peut-être aurait fait la diff. Mais là, aujourd'hui, c'est le collectif qui est bien plus fort, bien plus huilé, bien plus en équipe, tout simplement.
C'est ce qui fait la force de cette équipe.
Fait la force. Et c'est ça qui permet à Riyad Mahrez, justement, d'être encore meilleur. Puisque on en parle souvent avec Willy, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'Aubameyang. On attend de Pierre-Emerick Aubameyang qu'il fasse ce qu'il fait en club. Mais en sélection, tu peux pas si autour de toi, tu n'as pas un collectif, même pas forcément des joueurs d'un top niveau, mais un collectif d'un bon niveau. Et c'est ça la différence pour l'Algérie. L'Algérie a un collectif de haut niveau qui permet à des joueurs de talent comme Riyad Mahrez, comme Bounedjah, comme comme Feghouli, par exemple, de se sublimer. Ouais. Et évidemment qu'un Riyad Mahrez à ce niveau-là, c'est un plus pour le N, pour l'équipe d'Algérie.
Willy Dorkenou, vous voulez réagir?
Oui, et un plus parce que quand vous voyez l'équipe d'Algérie, au sein de cette équipe, il y a des talents énormes dans leur club, à l'extérieur et tout, mais ils ne sont pas mis en avant dans l'équipe.
Ouais.
Quand on voit Mahrez, il n'est pas le patron de l'équipe. Quand on veut faire partout en Afrique, on prend quelqu'un pour faire un patron. Il ne joue pas.
Il
n'y
a aucun patron. Jamel Belmadi l'a décidé ainsi.
Mais il a raison. Parce que le football se joue à 11, il n'y a pas de patron. Mais on prend des petits patrons. Le mec n'a jamais joué ce rôle de patron dans son équipe. Et deux ans après, il devient patron. Il n'assume pas. On le voit partout. C'est des gens qui n'assument pas, c'est des bandes de et matelots et dans leur équipe. Chaque deux ans, on veut en faire des capitaines. C'est pas le même boulot.
Et autre nouveau héros populaire, hein, Jamel Belmadi, coach Lamine Badiane. Lui aussi, il connaît bien Aliou Cissé. Ça va être un match et une finale de sélectionneurs, de coachs qui, eh bien, tout simplement, ont vécu dans la même ville, à Champigny-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Quand Aliou Cissé est arrivé à l'âge de 9 ans depuis le Sénégal, eh bien, il a rencontré Jamel Belmadi là-bas. Et ils se sont formés, tout simplement, petit à petit, pour se créer une carrière footballistique. Eh bien, des plus, tout simplement des plus belles parmi les joueurs du continent africain. En tout cas, ça va être, on l'entend, on le dit, on le lit à travers la presse, ça va être aussi un match de sélectionneur, coach Lamine Badiane, entre Jamel Belmadi, le local algérien, et Aliou Cissé, le sénégalais.
Alors, moi, je vais mettre un petit bémol par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Aliou Cissé peut devenir un grand entraîneur, mais il n'a jamais été un grand joueur. Ça, c'est déjà clair et net. Parce qu'on l'a vu au PSG, c'est un joueur de devoir, etc., etc. C'est pas le cas, peut-être, de Belmadi qui a joué à Marseille. Ouais. Alors, ce qu'il faut retenir chez Belmadi...
Mais on peut quand même retenir une carrière intéressante de la part de ces joueurs qui ont été sérieux, qui ont été professionnels tout au long de leur parcours. C'est ça que l'on dit, Lamine.
Mais bien sûr, bien sûr. Mais je persiste et je signe. Dire qu'Aliou Cissé était un joueur de devoir, lui-même il le sait.
Ouais.
Il sait que ça a été.
Oui, c'était un porteur d'eau, coach, tu peux le dire, bien sûr. Voilà,
exactement.
Mais ça fait pas. Donc, ça fait pas un porteur d'eau, ça fait pas effectivement un mauvais joueur.
Non.
Ça n'a pas été un grand joueur.
D'accord.
Écoutez bien ce que je dis. Ça n'a pas été un grand joueur, mais il va être un grand entraîneur.
Ouais.
Ça, c'est clair.
Il est déjà un grand entraîneur après avoir amené la sélection sénégalaise en finale.
Oui, il les a amenés en Coupe du Monde, il les a ramenés en finale. Alors, il a été capitaine aussi. Donc, voilà. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Belmadi, il a quand même une trajectoire différente. Parce que, bon, c'est vrai, on en fait un Algérien, c'est un Algérien. Mais rappelez-vous, il est né en France, il a grandi en France, il a joué en France. Ensuite, il a entraîné où ? Il a entraîné dans les pays arabes, etc., etc.
Ouais, pays du Moyen-Orient, tout à fait.
Du Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il a pu inculquer à cette équipe algérienne, parce qu'on le respecte...
Mais c'est ça l'alchimie qu'il a pu apporter, Lamine. C'est cette double culture-là.
Mais c'est ça que je veux dire. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est vrai, c'est un Algérien, mais il a une culture européenne, culture pays du Moyen-Orient, donc plus ce qu'il connaît un peu de je suis même pas sûr est-ce que même il parle arabe sage parce que il s'exprime en français avec les joueurs hein, donc quelque part ça veut dire
je pense qu'avec ses 5-6 années depuis qu'il est au Qatar, je pense qu'il a dû apprendre l'arabe littéraire, je pense. Le connaissant, à mon avis, il a dû apprendre l'arabe littéraire.
Donc c'est pour vous dire que effectivement c'est vrai qu'on peut dire ce sont des locaux.
Mais des vrais locaux.
Ici, mais voilà, c'est pas de vrais locaux.
Non, quoi. C'est des locaux. Moi, je suis en France.
On a des purs.
Doyen Uli, laissez-moi finir, s'il vous plaît.
Ouais.
Quand je dis ce sont des locaux, ce sont les locaux, vous savez bien ce qu'on appelle les locaux. Les locaux, ce sont les Bangasuba. Je ne renie pas les locaux. Je ne renie pas les locaux, mais ce que je veux démontrer par rapport à mon argumentaire, c'est que ce sont des gens qui ont quand même une autre culture footballistique de l'extérieur. Avant d'être des locaux, ça vous ne pouvez pas le nier. Ce sont des gens qui ont été à l'extérieur.
Oui, t'as raison, que tout à fait.
À l'extérieur, qui ont acquis des cultures européennes, maghrébines, arabes, de Doha, de je sais pas d'où. Avant.
On a l'exemple de Florent Ibengué qui est né au Congo et qui a évolué du côté de la France.
Vous prenez le Dembambaï qui a entraîné Génération Foot. C'est pas un entraîneur local, il a grandi ici, il est né ici, il a fait toutes ses classes ici, il est parti là-bas. Donc, ils apportent quelque chose. Ce ne sont pas les touristes dont parle
les sorciers blancs, les faux sorciers là.
Voilà,
donc...
ce que je veux dire, c'est une nouvelle génération qui arrive. Et cette nouvelle génération-là, par rapport à ce qu'ils ont appris à l'extérieur, nous permet. Un Christian Sango, quand il va arriver comme journaliste en RDC, ne va pas parler de la même façon et ne va pas traiter les sujets de la même manière. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça qui est très intéressant.
Ouais.
Donc, effectivement.
Mais c'est ça qui fait la belle alchimie de ce que propose Aliou Cissé avec le Sénégal et de Djamel Belmadi avec l'Algérie.
Bien sûr, c'est ça.
Cette alchimie-là.
Bengue, c'est la même chose. Ce sont des gens qui ont eu une Ibengué a commencé bien ici, non ? Donc maintenant, il ramène tout son savoir-faire de l'autre côté. Et avec les choses, il professionnalise, il font ceci, il font cela, et ça marche. Ouais. Et je crois que ça, c'est très, très important.
Bien sûr, c'est vrai. Pour l'exemple d'Ibengue, c'est vrai, on l'a vu ici du côté de la France. Après, il a été du côté de l'Asie avant de revenir du côté de la RDC. Donc, c'est vrai que c'est le mix de tout ça qui fait que, de cette culture-là, qui fait que, avec l'enracinement, du coup, qui fait que ça a développé ses capacités. Ça aide aussi à l'analyse, à la compréhension des situations. Ça aide beaucoup.
Il y en a un qui a un avis, Willy Dorque.
Il y a un lien de base avec cette équipe. Ils viennent de cette équipe, ils ont déjà joué pour cette équipe et tout.
Oui,
donc c'est différent de quelqu'un qui débarque dans cette équipe. C'est ce que je veux dire. Je donne l'exemple de Zagallo qui avait joué avec les Pelé et compagnie. On a vu ce qu'il a fait avec l'équipe en 70.
Il y a un autre supporter, Willy Dorkenou, d'un ancien joueur qui est aujourd'hui sélectionneur, qui va partir en finale. C'est Alain Giresse qui s'est exprimé à propos d'Aliou Cissé.
Cette sincérité qu'on a dans nos échanges et dans nos relations. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais dire pour Aliou, que je suis son premier supporter, évidemment. Il a dit, c'est un joueur qui était en finale en 2002, il va devenir un entraîneur, qui va dépasser le joueur qu'il était. Parce qu'ils vont gagner cette canne. C'est tout le mal que je lui souhaite du fond du cœur. Merci beaucoup. Voilà.
C'est tout le mal que je lui souhaite et je suis le premier supporter d'Aliou Cissé. C'était les paroles d'Alain Giresse. Voilà, comme quoi, tout ce qui s'était dit autour des journalistes du côté du Sénégal auparavant avec la sélection entre Alain Giresse et le Sénégal. Alain Giresse aime le Sénégal. Alain Giresse est ami avec Aliou Cissé et on a entendu Aliou Cissé à côté de Alain Giresse pour s'exprimer tout simplement. Messieurs, on va s'intéresser bien sûr à cette finale, on en parle maintenant avec cette belle affiche. On arrive au moment crucial, bien sûr, le Sénégal qui a arraché le premier ticket pour cette finale en battant la Tunisie 1-0 et l'Algérie qui a battu le Nigeria 2-1, c'était au Caire. Face à des Super Eagles qui ont montré aussi un beau visage et qui peuvent effectivement être fiers de leur parcours aussi. Ce n'est pas terminé, il y a une place de 3 qui vont devoir jouer face à la Tunisie. On va poser cette question, quelle tactique sera proposée par Aliou Cissé ou Djamel Belmadi, messieurs, dans cette finale de grande classe entre le Sénégal et l'Algérie, Willy, Christian, Lamine. Ouais.
Moi, ce que je demande au Sénégal, c'est d'imposer son jeu. Ils l'ont fait en première mi-temps contre l'Ouganda. Le Sénégal a les moyens d'imposer son jeu. Ils ne l'ont pas régulièrement fait dans ce tournoi. Je n'arrive pas à comprendre. Ils ont les moyens. Je suis en train de le dire. Ils ont les moyens. Donc, essayez d'être dans le jeu. De ne jamais chercher à prouver qu'ils sont favoris du tournoi. Non, ça ne sert à rien. Mais d'évoluer sur le terrain et de montrer de quoi ils sont capables en posant le jeu. Ils ont les moyens de le faire. Ils l'ont fait en une mi-temps contre l'Ouganda. On a vu ce que ça a donné. Après, ils couraient tout le temps après les autres. Non, on ne court pas après les autres parce que le Sénégal n'a pas à courir après le Bénin. Non, le Sénégal a démontré quelque chose face au Béninois.
Alors, quelle tactique vont proposer les Sénégalais à l'UCC?
De poser le jeu et de mettre Mané en 9 et demi parce qu'il a les moyens de diriger le jeu. Il a du ballon, il sait jouer. De ne pas se mettre en avant. À chaque fois qu'on le voit en avant, son jeu est brouillon.
Christian Chango, quelle est la tactique qui sera proposée à votre avis pour justement pallier les forces et les faiblesses de ces sélections, les unes comme les autres? Par exemple, Djamel Belmadi, quelle tactique pourrait-il adopter face au Sénégal avec cette équipe algérienne qu'on a vu monter petit à petit en puissance au premier tour, 8e, quart, demi? Quelles sont les stratégies de part et d'autre que l'on va pouvoir voir?
Pour du côté de l'Algérie, écoutez, il n'y aura pas de surprise. Hein. Ce qu'ils ont fait sur toute la compétition a été globalement de bonne facture, de bonne qualité. Donc pour l'Algérie, il n'y a pas 36 changements à faire. Hein. Il faut continuer sur ce qui a été mis en place depuis le début de la compétition. Ça a fonctionné. Ils ont pris 2 buts. Ils en ont marqué une multitude. Donc là-dessus, il n'y aura pas trop de changements.
Ça reste l'une des meilleures défenses.
Meilleure défense. Donc pour l'Algérie, il n'y a pas grand-chose à changer, mis à part essayer d'aller chercher le trophée au bout. Et pour le Sénégal, il faudra prendre en compte, bien sûr, pour l'Algérie, il y a Attal qui est blessé, qui sera remplacé par Zéphane. Pour le pour le Sénégal, il y a Khalidou Koulibaly qui est suspendu. Donc ça, c'est quand même une grosse absence,
une grosse perte.
Une grosse perte, c'est un des joueurs phares de notre continent, du Sénégal, du football mondial. C'est un des plus grands défenseurs au monde. Et pour la finale, il est suspendu. Donc forcément, ouais, ça redistribue les cartes au niveau défensif. C'est lui le pilier, le maître d'œuvre qui gère la défense. Donc ça change beaucoup de choses pour le sélectionneur, pour la défense et pour l'équilibre de l'équipe. On a vu aussi, on sait que le gardien est blessé, Gomis est blessé, il y a quelques incertitudes. Donc pour le Sénégal, surtout essayer de ne pas refaire ce qui a été fait sur le match de poule et vraiment essayer de jouer, d'imposer son jeu, surtout ouais, au milieu du terrain. La bataille, elle va être vraiment au milieu du terrain, Kouyaté, Ganagay notamment, face à Guedjura, Feghouli et Benacer. Pour moi, ça va vraiment être la guerre au milieu de terrain. Après, devant, il y a des armes pour des deux côtés, mais pour le Sénégal, il va falloir vraiment être costaud, très fort au milieu de terrain.
Quelle stratégie pourrait-il adopter ? Effectivement, ce serait ça.
Il faut être
rigoureux au milieu de terrain.
Il faut trouver une solution pour bloquer Guedjura, pour essayer d'empêcher qu'il organise le jeu d'en bas, d'une position basse reculée. Mm-hmm. Et pour moi, au milieu de terrain, il faut bloquer vraiment Feghouli. J'en ai parlé beaucoup hier. Il faut Feghouli, Benacer, de toute façon, les deux. Hein. C'est très technique, ça bouge, c'est remuant.
Belaïli aussi.
Belaïli qui joue un peu plus haut. Donc vraiment, pour moi, c'est au milieu de terrain où le Sénégal, il faut qu'ils aillent, que le Sénégal essaye d'empêcher le jeu du côté algérien.
Allez, on va écouter les auditeurs qui sont avec nous et qui nous ont rejoints sur Africa Radio. Il y en a beaucoup, hein, le standard qui va exploser. Diaby, pour s'exprimer justement sur cette finale entre l'Algérie et le Sénégal. Diaby, votre avis sur cette rencontre entre le Sénégal et l'Algérie dans une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir d'abord et votre avis sur cette finale.
Je vous remercie tous ceux qui travaillent dans cette radio.
Merci Diaby.
Merci à vous de nous écouter, Diaby.
Par exemple, pour avoir une bonne force dans un continent, dans un pays, c'est le média.
Ouais.
Merci.
L'Afrique n'a jamais été arrivée jusque-là. On est aujourd'hui à 24 équipes dans une compétition. C'est un demi-mondial.
Oui, tout à fait. C'est une demi-coupe du monde.
On est tous fiers, tous ceux qui ont participé. Et vous, grâce à vous, hein, qui donne beaucoup de confiance aux jeunes africains.
Merci beaucoup, Diaby.
Donc, pour le côté de l'Algérie, je suis sénégalais, mais l'Algérie est déjà fatiguée. Hein.
Ouais, les Algériens, selon vous, sont fatigués.
Le Sénégal doit comprendre que l'Algérie est déjà fatiguée et c'est être conscient aussi de ne pas louper les buts qu'il faut rater.
Ouais.
C'est ça le problème.
Ouais.
Là, il faut beaucoup de patience pour mettre une fois deux buts, l'Algérie est déjà au chaos.
Ouais, pour l'idée.
Une fois que l'Algérie est devant, bon, la bataille c'est pas fini, mais quand même le Sénégal est très exigeant. Hein.
Ouais, le Sénégal peut effectivement déstabiliser les Algériens s'ils marquent plus tôt.
L'Algérie n'est pas exigeant, hein. Ils sont pas exigeants du tout. Quand même, collectivement ils font bien, mais quand même, on va voir de toute façon. Mais
vous êtes d'où du Sénégal, Diaby? Vous êtes d'où du Sénégal?
Je suis de Kédougou.
D'accord, c'est super. Donc supporter sénégalais, hein, on le rappelle à nos auditeurs.
Sénégalais, mais j'aime aussi la vérité aussi. Hein.
Oui, ouais. Bien sûr,
c'est
bien sûr, en tout cas.
Le pays pour payer pour supporter n'importe quoi.
Même,
parlons du Mali, j'entendais beaucoup de. Non, c'est des choses qu'on ne peut pas permettre. Le Mali est jeune de joueurs. Ça quand même, on ne peut pas dire que c'est des bons jeunes, c'est des jeunes, là où ils sont là.
Ils ont fait un beau parcours, hein. Ils sont sortis en 8e de finale.
D'accord, je suis d'accord avec le bon parcours, mais il faut aller plus loin.
Il faut aller plus loin. Vous avez raison.
Il a raison, oui.
Parce que le jeu, c'est pas avec l'esprit. On joue avec l'esprit. Le Codiman les a éliminés à cause de l'esprit.
Ouais.
C'est tout.
Ouais.
Mais chaque fois qu'il faut essayer de souder les choses, quand on voit les défauts, il faut essayer de corriger. Chaque année, vous êtes là à travailler dans les radios, c'est pas pour parler seulement. C'est donner des conseils. On sait même pas où vous êtes. Vous n'êtes pas africain seulement, vous aimez tous les pays. Nous, entre nous, on ne s'aime pas. Mais vous.
Ah non, nous, on aime tous les pays africains, Diaby. On aime tous les pays africains. Et c'est ça qu'on essaye de partager à travers la radio.
À votre place.
Merci beaucoup, Diaby. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la radio africaine. Bandera qui est avec nous. Bonsoir Bandera. Supporter de quel pays? Un avis sur cette belle rencontre, cette belle finale entre l'Algérie et le Sénégal. Bonsoir Bandera. Rapidement, on vous écoute.
Bonsoir à toute la Dream Team.
Bonsoir Bandera.
Dans les codes à mort. Oui, non, moi ce que je voulais rajouter pour la 32e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je peux dire qu'il y en a deux stars dans cette compétition, de cette grande fête du football africain. C'est la star numéro un, je peux dire, c'est le niveau des équipes africaines.
Ouais.
Ça, c'est ma première star. Ça.
C'est vrai.
Et la, deuxième star, je peux rajouter optionnel le niveau de l'arbitrage africain.
Ah, l'arbitre. Ah, enfin, bravo. Un ami auditeur et également animateur radio qui nous donne son avis sur l'arbitrage. Ça fait plaisir.
Oui, on n'est pas obligé de le. Moi, ça, c'est mon point de vue. Donc, quand je dis, bon, surtout le niveau, ça, je vais beaucoup insister, la Dream Team de Radio Africa, parce que aujourd'hui, pour la première fois, les gens, ils découvrent d'autres facettes du football africain. Donc, on monte légèrement encore plus loin. Vous êtes à mieux placé par rapport à moi. Moi-même, je suis chroniqueur sportif ici en Bretagne, dans Radioactive au niveau Africa 22 Sport, défend vigoureusement la même chose que vous faites, mais au niveau local ici en Bretagne. Parce que les gens, déjà dans les années.
Donc, l'arbitrage. L'arbitrage vous a plu. Pour quelle raison l'arbitrage vous a plu?
Non, c'est-à-dire au niveau, avec l'histoire de VAR, on a vu avec les compétitions internationales comme la Coupe du Monde de football féminin, et puis même au niveau dans d'autres compétitions internationales ici en Europe, on voit bien que c'est beaucoup de polémiques. Et malgré avant l'intervention de la VAR, du VAR,
ça s'est bien passé.
En quart de finale, les choses se passent pas si mal. Et malgré ça, on peut dire que dans les années 80, c'est plutôt l'arbitrage maison, tout ça là. Maintenant, on en voit plus. Moi, ça, c'est mon point de vue. Je trouve que surtout le côté de nivellisation. Parce que ce qu'on a vu au niveau des compétitions, là, maintenant, on n'a pas des scores fleuves. À un moment, pendant certaines compétitions de la CAN, c'était vraiment... On atomise une équipe A par rapport à une équipe B. Maintenant, les choses se resserrent. Je fais allusion...
Le niveau se resserre, effectivement. Ouais. Ouais. Effectivement, le niveau du football africain.
On regarde la Mauritanie, oublier les écureuils ou les zébus de Madagascar, là, c'est énorme.
C'est énorme, effectivement. On en a parlé tout à l'heure, la Mauritanie, avec le directeur de la communication. Merci, Bandera, d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes animateur aussi radio du côté de la Bretagne. Rappelez-nous votre émission.
Africa 22 Sport sur Radioactive. Vous tapez radio-active.com.
Merci.
Vigoureusement.
Merci beaucoup, Bandera.
Surtout pour l'arbitrage.
Merci, Bandera. Et deux points intéressants, Woody Dor, que nous. Ouais. L'arbitrage, au niveau de la compétition, on va en parler aussi.
Ouais, l'arbitrage.
Votre avis sur l'arbitrage.
Oui, mais l'arbitrage était top. Les arbitres, ils ont contrôlé. Chaque rencontre a été contrôlée par les arbitres. Mais ce qui m'a gêné dans ce tournoi, parce que j'ai vu au niveau de la VAR, on m'a montré l'instructeur français qui va instruire les arbitres africains.
Oui.
Moi, ça m'a choqué énormément parce que la CAN a été créée en 57.
Ouais.
Et la Coupe d'Europe a été créée en 60, 3 ans après. Donc, je ne vois pas pourquoi un Européen va aller instruire nos arbitres. Oui. Donc, des petits trucs comme ça, ça me choque énormément.
C'est un avis à Ousmane qui va nous donner son point de vue sur la finale. Ousmane, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la radio africaine. On nous écoute depuis Abidjan sur le 91.fm, en Côte d'Ivoire, sur Paris, sur le 107.5 FM. On nous écoute également DAB+, à travers toute la France. Et depuis quelques temps, du côté de la Loire-Atlantique, bien sûr, à Nantes, Saint-Nazaire et un peu partout du côté de la Bretagne aussi. Ousmane, votre avis sur cette finale? Vous êtes supporter de quel pays?
Du Sénégal.
Du Sénégal. On vous écoute sur cette affiche Algérie-Sénégal.
Oui, moi, il y a une chose qui m'étonne. Votre gardien de but, Raïs Mboli.
Oui.
Si, je ne le souhaite pas. Si au cours du match, il lui arrive quelque chose... Mais est-ce que l'Algérie a d'autres bons gardiens?
Oui, il y a deux autres gardiens qui sont très très bien et que Djamel Belmadi a sélectionné et à qui il a fait confiance. Et l'avantage de l'Algérie, Ousmane, c'est effectivement ce banc, Christian Chango. C'est que les Algériens ont effectivement 11 acteurs qui jouent sur le terrain, mais il y a 11 autres joueurs qui sont prêts à rentrer à n'importe quel moment.
Oui, exact. Hein, du côté de l'Algérie, c'est vrai que c'est une équipe complète du 11 titulaire aux 12 autres joueurs qui composent l'équipe. Ouais. Et c'est vrai que Raïs Mboli, qui est le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection algérienne, est un rempart présent depuis des années, qui a fait encore, on l'a vu sur les derniers matchs où c'était chaud, c'est lui qui a permis à l'Algérie d'aller chercher la qualif. Donc en lui souhaitant bien sûr toute la réussite possible et surtout pas de pépins, je pense que même si lui est titulaire, derrière ses remplaçants sont de qualité, mais en théorie il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est un guerrier et à mon avis il va aller jusqu'au bout de cette compétition, il va défendre ses cages avec
bec et ongle.
Et voilà, exactement, bec et ongle.
Et Ousmane, vous voyez comment cette rencontre finale Sénégal-Algérie?
Moi je vois que c'est le Sénégal va gagner quoi. Hein.
D'accord, Sénégal.
Moi vraiment je le vois, le Sénégal gagnant. Mm-hmm.
Quel score est-ce que vous avez?
Ou deux buts à un.
Un but ou deux buts.
1-0 ou 2-1.
1-0 ou 2-1 pour le Sénégal.
C'est dur qu'on fait, quoi.
Ah, ben ça fait plaisir. En tout cas, on est très content de vous avoir avec nous sur Africa Radio. Et bien, tout simplement, on a passé effectivement votre message, le message aussi des auditeurs précédents qui nous ont appelés sur Africa Radio. On va vous remercier, Ousmane, d'avoir été avec nous sur la radio africaine.
De rien.
Merci beaucoup. À très bientôt sur Africa Radio. Restez bien avec nous, Ousmane. Suivez-nous sur Africa Radio pour cette petite finale qui aura lieu mercredi. Et également la grande finale de cette belle Coupe d'Afrique des Nations vendredi 19 juillet. Coach Lamine, votre avis sur cette finale? Allez, on va peut-être lancer les pronostics, messieurs. Algérie-Sénégal, grande finale. Et bien vendredi,
moi, c'est
un pronostic
que Lamine. J'attends tous les deux.
On va les donner. On va les donner. Coach Lamine.
Alors, vous voulez que je vous dise la tactique que le Sénégal va prendre pour jouer contre le truc?
Allez-y.
Pour que vous vous appeliez Belmadi après?
Pour qu'après on appelle Djamel Belmadi et qu'on lui donne les petits biscuits que vous allez nous partager.
Je ne vous le dirai pas. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas du tout, le même match.
Ouais, ça ne sera pas la même rencontre.
Mais je peux vous dire que ce sera une finale assez difficile, ça je l'ai dit dès le départ. Mais
vous avez pas encore de pronostic à sortir pour l'instant, on a compris.
J'ai un pronostic. Vous êtes à l'écoute.
On vous écoute. Lamine fait durer le plaisir pour ce pronostic. Désirer. Willy Dorkounou, votre pronostic?
Mon pronostic, c'est il parle de tactique, moi je vais parler de tactique. C'est-à-dire que l'Algérie, M. Diaby a souligné quelque chose, la fatigue, parce que l'Algérie joue énormément.
Ouais.
Donc pour contrer l'Algérie, il faut avoir un jeu minimaliste comme le Nigeria.
Ouais.
Mais ce qui me fait peur, c'est que le Sénégal, comme d'habitude, va courir après les Algériens et vont se faire avoir.
Alors pronostic?
Pronostic, moi je vois plus l'Algérie qui est rusée. et c'est une équipe rusée. Donc,
le cœur vert de Willy Dorkounou. Christian Chango, votre pronostic?
Un but partout, prolongation et victoire du Sénégal.
Victoire du Sénégal après prolongation. Coach Lamine, votre pronostic, on ne l'aura pas, on a bien entendu. Et moi, je donne pas de pronostic également. Je reste neutre et impartial sur cette radio. Et tant que je serai journaliste, je garderai mon impartialité pour cette belle Coupe d'Afrique
on
des Nations.
Les rires du coach,
même si effectivement, on a bien sûr, tout simplement le cœur qui chavire vers une ou plutôt une autre nation. Mais on restera objectif pour nos auditeurs et pour le bien de tous les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent sur Africa Radio.
Vive le sport.
En tout cas, vive le sport, exactement. On va finir sur cette belle phrase de Willy Dorkounou. Vive le sport sur Africa Radio. Merci de nous suivre depuis le début de cette compétition. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre sur Africa Radio, sur le www.africa.africaradio.com. Depuis l'international, vous nous écoutez à Paris sur le 107.5 FM. On vous fait un grand coucou si vous nous suivez depuis le début de cette compétition. Restez bien avec nous jusqu'au dénouement. C'est le 19 juillet, bien sûr, sur Africa Radio. En exclusivité, on vous commente, on vous présente ces matchs de Coupe d'Afrique des Nations avec Willy Dorkounou, avec Christian Chango, avec Lamine Badiane, avec la bonne humeur aussi, avec toute l'équipe technique bien sûr. On veut penser à Valentin Blanc, avec Antoine Cruchon aussi, Maxime Salin, Simon Ross et toute l'équipe d'Africa Radio avec Francis Laloupo, Stéphanie Hartmann, Fatou Birama. Bien sûr, on veut penser à toute l'équipe, Salah Eddine Gakou, Phil Le Montagnard qu'on écoute chaque matin pour le débrief de la CAN avec Edouard et également Béranger. Toute l'équipe de la radio, on vous embrasse bien fort. Restez bien avec nous pour la suite des programmes. On se donne rendez-vous mercredi pour la petite finale.